que Jean-Baptiste Barthélémy est excusé et donne procuration à Philippe Baudouin, Jean-Luc Beaul à Tanguy Servet, Nathalie Colin-Sterler, s'il vous plaît, on a commencé, merci. Nathalie Colin-Sterler à moi-même, Corinne Friot à Jérémy Allois, Christine Fittante à Cédric Goutte, Guillaume Godet à Henri Malassé, Joy Hendrix à Jérôme Guerre, Philippe Glaser à Nathalie Spormeyer, Victor Chaumard à Marie-Claude Voinçon, Barbara Bernardi à, vous voulez couper les portables en même temps, à Charlotte Leduc, Attila Sapsi à Julien Husson, Doane Tran à Catherine Gervaise, Vincent Dieudonné à Sylvie Roux, Chantillo à Philippe Brunella, Walter Kurzmann à Pascal Hubert, Thierry Pernet à Marc Biagioli, François Henriot à Nathalie Hess, Roger Pelletier est excusé, mais Étienne Anstead sera en retard. Voilà ce que j'ai comme mot d'excuse ou comme procuration. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance notre directeur général des services Damien Parmentier. Il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. C'est adopté. Je vous propose maintenant d'arrêter les PV des conseils du 16 et du 29 avril 2026. Je n'ai pas eu de demande de correction ou d'ajout. Il n'en a pas. Je considère qu'il est adopté. Alors, nous passons au point numéro 1 de l'ordre du jour, qui est l'adoption du règlement intérieur. Donc, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Conseil métropolitain établit un règlement intérieur qui fixe les modalités de son fonctionnement, ainsi que le droit des élus au sein de l'Assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent son adoption. Et donc, nous vous proposons donc d'adopter le règlement intérieur qui vous a été communiqué. Donc, nous limitons le temps de parole à 10 minutes par intervention, le temps d'explication de vote à 3 minutes. Nous baissons le seuil des groupes par rapport au mandat précédent pour permettre à chaque sensibilité qui avait pu s'exprimer au second tour des élections municipales de la ville-centre d'avoir un groupe. Ça nous paraît une expression démocratique. Nous avons, autrement... prend pour l'essentiel un très original des dispositions du Code général des collectivités territoriales. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? Oui, Monsieur Mertz.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Monsieur le Président, une fois n'est pas coutume, mais je voudrais vous remercier du choix que vous avez fait de ramener à 3 le nombre d'élus nécessaires pour constituer un groupe, ce qui va nous permettre de nous constituer en groupe et donc de disposer de quelques moyens pour fonctionner de manière utile et efficace. J'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de notre précédente réunion. À mon sens, un conseil communautaire, un conseil métropolitain, ne fonctionne pas exactement comme un conseil municipal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à proprement parler une majorité et une opposition. Tout cela fonctionne de manière transversale. Et donc, nous considérons que notre groupe est un groupe qui n'est pas forcément... en opposition systématique, même s'il lui arrivera de l'être, et on le verra peut-être tout à l'heure. Mais en tous les cas, c'est un groupe qui est ouvert, et donc je tends la main à celles et ceux qui voudraient se retrouver avec nous au sein de ce groupe. Merci, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur Mertz. Donc, je mets aux voix ce projet de règlement intérieur. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, OK. Donc le groupe RN et le groupe LFI. 7. Bien. Je vous remercie. Alors, point numéro 2, désignation des membres des commissions d'études thématiques. Alors, donc, par délibération du 16 avril dernier, nous avons fixé la liste des commissions d'études thématiques. Culture, tourisme, sport, relations internationales pour la première, la 2 enseignement supérieur, innovation, développement économique, pour la 3 ressources qui inclut les finances et ressources humaines, le foncier, la stratégie et l'administration générale, 4e commission, les services urbains et la transition écologique, c'est la voirie, la mobilité, les déchets, l'eau, l'énergie et la transition écologique, et la 5e commission, l'urbanisme et les solidarités. On inclut là l'habitat, la cohésion sociale, l'urbanisme et la sécurité. Donc, il est proposé de désigner, conformément aux listes qui vous ont été communiquées, donc je vais vous faire grâce de la relecture complète des listes. Je voudrais simplement compléter, puisqu'on a eu des demandes depuis la communication des listes, et donc en rajoutant les inscriptions suivantes. Donc Antoine Dor à la commission des services urbains et transition écologique, Jean Baucher à la commission ressources, Emmanuel Dolvec de Pendant la Chétive, conseiller municipal à titre consultatif, donc à la commission urbanisme et solidarité, Christophe Romanjuc de Pendant la Chétive aussi à titre consultatif dans cette même commission, et Éric Alcaïde de la Conexi dans cette même commission. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Non. Donc ce point est adopté à l'unanimité. Le point numéro 3, c'est la commission intercommunale des impôts directs. Délibération du 10 juin, ce qui était encore le conseil de communauté avait décidé la création d'une commission intercommunale des impôts directs. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe à la détermination des nouveaux paramètres départementaux d'évaluation. Cette commission interdépartementale est composée du président de la métropole ou de son représentant et de 10 commissaires titulaires et de 10 suppléants. Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans ou moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales de la métropole ou des communes membres, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. La désignation des commissaires est effectuée, alors j'insiste, par le DDFIP, le directeur départemental des finances publiques, à partir d'une liste qu'on lui présente et qui compte deux fois plus de membres qu'il y aurait de candidats. Ça veut dire que la moitié de ceux que l'on choisit y sera et que l'autre moitié n'y sera pas. Et que c'est le DDFIP qui décide souverainement. Voilà. Donc la liste, vous l'affichez ou je la lis? Bon, elle est jointe. Oui, elle est longue. Je vous en fais grâce aussi. Vous l'avez sous vos yeux. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? S'il n'y en a pas, elle est adoptée. Nous passons au point numéro 5, la désignation de nos représentants dans divers organismes. C'est le 4. Monsieur Roch. Sur la commission interdépartementale?
Oui.
Ok. On note vos abstentions. Alors, le point numéro 4. Alors, désignation à la commission consultative des services publics locaux, donc qui comprend des représentants d'associations locales sans que la loi ne vienne en préciser le nombre. Ainsi, une modification est-elle apportée par la version initiale de libération des interventions? Le conseil municipal est Le conseil métropolitain est appelé à désigner 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants d'associations locales au lieu de 5 mentionnés. Les autres dispositions sont inchangées. Donc c'est tout.
Il faut déroger après.
Alors qui vote contre? Qui s'abstient?
2. 1.
Unanimité. Et la motion 2 voilà. ce sont les membres. Alors, les membres, on propose au titre du Conseil métropolitain, donc Philippe Manzano, Martine Michel, François Carpentier, Roger Pelletier, Jean-Luc Houry, et en suppléant Julien Husson, Erfan Chouika, Dominique Strebli, Marine Weber, Thierry Houry. Voilà. Et au titre des milieux associatifs, on propose Hervé Ribon de Messe à vélo, Gérard Landragy de Lorraine Nature Environnement, Pierre Spacher de la CLCV et Anna Gérassi de Famille de France. Et on propose en suppléant, au nom des mêmes associations, François Baudry, Sylvie Langlais, Jean-Marie Ravold et Nicole Chrétien. Y a-t-il des abstentions? Oui, alors, abstention, groupe LFI, groupe RN. Qui s'abstient? Les autres votent pour, je vous remercie. Point numéro 6. Non, 5, décidément, je vais aller vite, il n'y a pourtant pas beaucoup de points. Désignation des représentants des divers organismes. Donc, je vous propose d'abord que nous ne votions pas à bulletin secret. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, donc on votera à main levée. Donc, désignation à l'ADIL donc de Frédéric Navreau. On vote par motion, ouais. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité? Non, abstention? Elle est fixée systématiquement. Ok, d'accord. Bon. Alors, Sylvie Roux à l'amicale du personnel. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voilà. Donc, même vote. Ensuite, Vincent Dieudonné aux amis de la chèvre de Lorraine. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ils s'abstiennent sur la chèvre de Lorraine. Donc, ok. Non, qui s'abstient aussi sur la chèvre de Lorraine?
RN, je pense. Pour la chèvre,
RN. Le RN s'abstient aussi pour la chèvre de Lorraine. Bon. Bon. Donc, donc ça fait 7 abstentions pour la désignation à la chèvre de Lorraine. Bon. Alors, ensuite, à l'association. Chut! La chèvre vous dissipe beaucoup, je trouve. Ouais. Bon, donc, pour l'association des amis du centre Pompidou, proposons Jean-Luc Baule, qui s'abstient. Pareil, même vote. Et personne ne vote contre. Non, et les autres votent pour. Pour le centre régional d'information et de soutien technique aux échanges européens en Lorraine, proposons Andosan Weissman. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et les autres votent pour. Merci. Donc c'est le même vote. Pour la désignation au CEREMA, le Centre d'études d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, nous proposons Marilyn Weber. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voilà, même vote. Et les autres votent pour. Pour la désignation au Club Hydrogène Grand Est, nous proposons Frédéric Laugent en titulaire et le DG à service urbain en suppléant, toujours un technicien dans ce club. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Ensuite, désignation au comité responsable du 9e plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées de Moselle, posant titulaire Frédéric Navreau et Geoffrey Chutz en suppléant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Ensuite, à la commission de médiation, proposons Frédéric Navreau. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À la commission locale de transport public particulier de personnes, c'est les taxis, nous proposons en titulaire donc Philippe Manzano et en suppléant Joy Hendrix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Ensuite, à la communauté professionnelle territoriale de santé de Metz et de ses environs, nous proposons Isabelle Lux. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À l'association foncière urbaine libre de l'espace Serpenoise, nous proposons Éric Lucas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À France Hydrogène, proposons Frédéric Laugent. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. La SDC Gare routière, PC Régulation, nous proposons René Leborgne. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au GART, donc, le groupement des autorités de régulation de transport. Oui, voilà. Nous proposons en titulaire Philippe Manzano et en suppléante Voyondrix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, même vote. À l'association Grand Est Mobilité Électrique, nous proposons Philippe Manzano. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À la SAS H de Metz, proposons en titulaire au CA comme à la collectivité des associés, donc en titulaire Frédéric Laugin et en suppléant Philippe Manzano. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À désignation à l'immeuble Les Muses, bureau Centre Pompidou-Metz, nous proposons Éric Lucas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Alors, à l'Institut de la Grande Région, on propose en titulaire Arnaud Sanweisman et en suppléant Pascal Hubert. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À la mission opérationnelle transfrontalière, nous proposons Arnaud Sanweisman en titulaire, Pascal Hubert en suppléant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À la SEM Moselle TV, nous proposons Cédric Goutte. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À l'association Nos quartiers ont du talent, nous proposons Shadi Elnar. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au réseau national des espaces tests agricoles, nous proposons Yves Dieudonné. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À la SAFER Grand Est, nous proposons Philippe Glaser. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À l'association Seine-Moselle-Rhône, nous proposons Philippe Manzano en titulaire, Jean-Luc Houry en suppléant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À l'association Terre en Ville, nous proposons Yves Dieudonné en titulaire, Anne Frisch-Renard en suppléant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À l'association des grandes écoles de Metz, nous proposons Marc Siamana. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. À l'Institut Confucius, nous proposons Doan Tran. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au pôle Aquanova, nous proposons Frédéric Laugin. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au conservatoire rayonnement régional, Gabriel Pierney, donc au conseil d'établissement, parce que je vous rappelle que c'est un établissement en régie. Donc nous proposons Jean-Luc Boll. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au collège Pilâtre de Rosiers d'Ars-sur-Moselle, nous proposons en titulaire Laurent Bovy, en suppléant Jean Combel. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Heureusement que vous n'avez pas demandé le vote à bulletin secret. Hein. Donc, au collège Jean Bauchier du Mont-Saint-Martin, donc titulaire Jérôme Guerre, suppléant Philippe Désert, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Au collège La Louvière, Thierry Horry en titulaire, Nathalie Cassiola en suppléant, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Collège Jean Mermoz, Thierry Aurin titulaire, Dimitri Sokolevski en suppléant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au collège Metz-Arsenal, Nathis Pamir en titulaire, Rachel Burgier en suppléant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au collège Barbeau, titulaire, Nicole Fessel, suppléant, Timothée Bord. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. Au collège Léo de Blémont, titulaire Ayane Afsi, suppléant Jacqueline Schneider. Qui vote contre? Qui s'abstient? Même vote. que la Jules Lagneau, Jean-Louis Ballarini en titulaire, Geoffrey Chut en suppléant, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Au collège François Rabelais, titulaire Timothée Bord, suppléant Marc Siamana, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Au collège Jean Rostand, titulaire Béatrice Agamemnon, suppléant Philippe Glaisère, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Au collège Thaison, titulaire Blaise Tafner, suppléant Rachel Burgi, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Au collège Georges de la Tour, titulaire Marc Siamana, suppléant Éric Lucas, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Paul Valéry, suppléant, titulaire Mamar Mehalil, suppléant Yanafsi, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Je n'ai pas eu le temps, alors j'ai trop vite. Qui s'abstient, je voulais en faire. Voilà. Même vote. Paul Verlaine, titulaire Maïn Weber, suppléant Gertrude Gokaljop, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Philippe de Vigneul, titulaire Isabelle Luc, suppléant Henri Malassé, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Collège Louis Armand à Moulins-les-Metz, titulaire Valérie Bord, suppléant Alexandre Laurent, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Collège Albert Camus à Moulins-les-Metz, titulaire Jessie Baravin, suppléant Albert Del Pozzolo, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. J'ai un problème là, c'est des membres de conseils municipaux et pas des conseillers métropolitains. Mais non, mais je croyais que c'est devant des conseils métropolitains. Vous avez fait quoi, là?
On a pris le nom de la liste.
Mais j'ai un problème, hein. Vous m'avez dit qu'on ne pouvait pas. Vous n'avez pas fait sur Metz. Ah non, sur Metz, on a mis des conseils métropolitains. Et vous êtes sûr qu'il ne faut pas être conseil métropolitain? Ce n'est pas des syndicats intercommunaux, hein. Bah oui. Enfin, sous réserve, je trouve les services sur le problème de.
C'est Moulins.
Non, mais d'accord, mais si c'est Moulins, ça reste un collège. Si ce n'est pas des syndicats intercommunaux, je ne suis pas du tout certain que nous puissions désigner. Et je ne suis pas du tout certain qu'on puisse désigner au titre de la métropole des élus qui ne soient pas des élus métropolitains.
C'est Jean Baucher.
Bah oui, d'accord, mais donne des noms de conseils municipaux. Je suppose qu'ils l'étaient déjà lors du précédent mandat. Si on les a remis, mais. Parce qu'il y a dans les syndicats mixtes un article du Code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément que la métropole peut être représentée par des membres des conseils des communes composant la métropole. Je ne suis pas du tout certain que ça vaille pour les collèges. Donc je dis sous cette réserve, sinon on repassera quelques collèges, heureusement que ce n'est pas tous. C'est que sur Metz, on n'a que des conseillers métropolitains qui sont, et on a justement exclu des conseillers municipaux qui n'étaient pas conseillers métropolitains, sachant que les communes ont aussi des représentants dans les collèges. Donc, oui. Bon, allez, on continue là, parce que c'est sous réserve que ce soit légal, sinon on passera. Donc là, il n'y a pas de problème. Jules Ferry, Voipire, Fanchouika en titulaire et Frédéric Laugent en suppléant. Ouais. Ensuite, à Mendès France, à Voipire toujours, Fanchouika en titulaire, Philippe Glaisère en suppléant. Au lycée professionnel, André Citroën.
Météo vote, président.
Ah, pardon, oui. Qui vote contre? Alors, on reprend. Attendez. Jules Ferry, qui vote contre? Qui s'abstient? Dommage quand même de vous empêcher de faire l'exercice. Ah, d'accord. Bon, allez, suivant, Pierre. Alors, Pierre Mendès France, qui vote contre, qui s'abstient. Ensuite, André Citroën, qui vote contre, qui s'abstient. toujours le même vote. René Cassin, donc titulaire Ferit Burhan, suppléant Fatih Haada, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Lycée de la communication, Douane Tran titulaire, Isabelle Huc suppléante, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Lycée Cormontaigne, titulaire Martine Nicolas, suppléant Jérémy Allois, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Lycée Faber, titulaire Nosson Weissmann, suppléant Nicole Fessel, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Lycée Georges de la Tour, titulaire Ferit Burhan, suppléant Jérémy Allois, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Lycée Alain Fournier, titulaire Jérémy Allois, suppléant Blaise Taffner, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Lycée Raymond Mondon, titulaire Blaise Taffner, suppléant Julien Husson, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Lycée Schumann, titulaire Ayane Afsi, suppléant Geoffrey Schutz, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Lycée Louis-Vincent, titulaire Jean Baucher, suppléant Jérémy Allois, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Lycée Léonard de Vinci, titulaire Dimitri Sokolovski, suppléant Sonia Vasseur, même sujet, qui vote contre, qui s'abstient. Même vote. Désignation donc à l'association Envirobat Grand Est, Arcade LQE. Alors, en remplacement de Rachel Burgi, nous vous proposons Nathalie S. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Au SCOTAM, nous vous proposons de remplacer Corinne Friot par Éric Lucas. Qui vote contre, qui s'abstient, même vote, et c'est fini. Bien, alors maintenant nous passons au point numéro 6, le compte financier unique 2025. La parole est à Monsieur Thierry Horry.
Je crois qu'il y a une motion 1, il faut un nouveau président de séance, il faut que tu partes.
Il faut que je parte.
Oui. Bah, d'abord, non, pas tout de suite. Pas tout de suite.
Non, mais je peux partir tout de suite. Hein.
Non,
mais...
non, il y a d'abord demander si on peut faire un vote.
Ah oui. Je demande d'abord. Ah, parce qu'il faut élire le président de séance.
Ben voilà. C'est nouveau.
C'est tout nouveau. Ouais. À nouvelle disposition. Ben voilà. Donc, je vous propose de déroger au vote à bulletin secret pour désigner le président de séance, qui ne sera pas moi. Bon, donc, qui vote contre, qui s'abstient, bon, à l'unanimité, donc maintenant, qui préside la séance pendant que je la quitte et qu'on ait le nouveau président, c'est encore moi ou...
Ben non.
Non.
D'accord, ok. Bon ben Cédric,
bon,
vas-y,
ben viens,
vas-y. Fais le deuxième temps de la motion. Le temps 2.
Il ne prend pas ta veste. Allez. Oui, parce que c'est juste pour le vote. Il peut débattre sur le sujet. Donc, je passe donc au niveau de la motion élection du président de séance. Est-ce que nous avons un candidat ? Je propose que ce soit moi.
C'était vous le candidat.
Voilà.
Désigné d'office, pas d'objection, pas d'abstention. Donc, parfait. Donc, j'en prends donc cette présidence. Donc, je laisse notamment pour le point suivant la motion, notamment concernant le compte financier unique 2025, la parole à Thierry Horry.
Bien, alors comme vous le savez, la métropole depuis 2025 a souhaité mettre en place le compte financier unique dès 2025. Il remplace pour les anciens, mais pas seulement, le compte administratif et le compte de gestion. Et donc il y a une fusion de l'ensemble de ces comptes, mais ça vous l'avez vu sur la délibération, mais peut-être que certaines de vos collectivités l'ont déjà fait aussi. Donc pour beaucoup, ce n'est pas une nouveauté, mais en tout cas, je tenais à le préciser. Alors, nous avions, dans les précédentes séances, parlé du budget primitif, et donc on se projetait vers l'avenir, et donc avec le compte financier unique, on va regarder dans le rétroviseur ce qui s'est passé par ailleurs, donc en 2025. Alors, je ne vous rappelle pas, mais il est important quand même de vous le confirmer que la loi de finances 2025 a impacté fortement les collectivités locales. Il y a eu la mise en place d'Illico qui a fait en sorte que, en ce qui concerne notre collectivité locale, 1,2 million d'euros soient prélevés. Il y a également le gel des reversements de la fraction de TVA nationale perçue en compensation de la suppression de la taxe d'habitation et de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l'ancienne CFE, une réduction de 30% de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, la suppression avec une suppression définitive qui intervient en 2026, et puis accessoirement, mais ça c'est pour tout le monde, l'augmentation de 3 points des taux de cotisation de la CNRACL et tout, qui a représenté une charge de près de 850 000 euros. Et donc, avec ce contexte financier national qui était imposé aux collectivités locales et singulièrement à la métropole, nous avons construit donc un budget donc en 2025 avec une montée en charge qui est logique et habituelle en fin de mandat, notamment dans le cadre de la réalisation de notre plan pluriannuel d'investissement et qui a, comme vous l'avez vu, en 2025, mais également en 2026, eu un recours à l'emprunt de manière importante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Je vais vous parler d'abord du budget principal. Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 218 millions d'euros, soit une hausse de plus de 2% par rapport à 2024. Et les dépenses réelles de fonctionnement ont atteint 183 millions d'euros, soit plus 3,28%. Donc, les dépenses, ainsi, vous le voyez, ont eu une évolution plus rapide que les recettes. En termes d'épargne brute, on observe une légère diminution par rapport à 2024, puisque en 2024, notre épargne brute était à 36 850 000. On est à 35 500 000 en 2025. Mais elle est encore élevée, mais il n'empêche que je ne rappelle pas les débats qu'on a eus au niveau du budget. On voit la tendance, effectivement, entre des ponctions de plus en plus fortes de l'État, un PPI qui est vraiment bien ancré que on met en œuvre, et puis des recettes qui sont un peu plus en deçà, et donc forcément c'est un peu plus difficile. En investissement, nous avons eu 126 millions d'euros de dépenses réelles qui ont été mandatées, soit alors pour le coup une forte hausse puisque ça fait presque un peu plus que 35% par rapport à 2024, et ça c'est encore une fois du fait des projets inscrits au PPI. Et enfin, les recettes réelles qui suivent bien sûr la tendance avec 121 millions d'euros de réalisation, mais là avec une mobilisation d'emprunt à hauteur de 45 millions d'euros. Donc au total, l'exercice 2025 affiche un résultat global de clôture de 2,9 millions d'euros, soit quasiment identique à celui de 2024 qui était de 2,7 millions. Si on regarde un petit peu les chiffres clés du budget principal, on voit que la situation financière de l'Europe métropole, de même que la montée en charge progressive des investissements, ne nécessitait pas jusqu'en 2024 de recours à l'emprunt, puisqu'en 2024 on a eu 5 millions d'euros, mais le recours a été important donc en 2025, 57 millions au total, dont 12 millions pour le budget annexe transport. Donc ça a eu pour conséquence bien sûr l'augmentation de l'encours, tout budget confondu de la dette, passant ainsi de 171 millions 440 000 à 209 millions 450 000. Mécaniquement, la capacité de désendettement augmente également pour s'élever à presque 4 ans à fin de 2025. On est largement éloigné quand même du seuil d'alerte qui est fixé à 12 ans. Donc on a encore de la marge. En ce qui concerne maintenant, si on rentre dans les chiffres clés et plutôt sur le fonctionnement, donc comme je vous le disais, les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé de 3,28%. Elles ont atteint 183 millions d'euros. C'est plutôt, c'est d'ailleurs, je ne sais pas qui est-ce qui clique, mais ça serait bien d'avoir la dia suivante. Voilà, merci. Donc les dépenses de personnel sont l'essentiel en tout cas, ou une grosse partie de nos dépenses de réelles de fonctionnement, puisqu'elles représentent 39% de ces dépenses de fonctionnement. Elles sont en augmentation de 6,7%. Et puis les charges à caractère général, elles représentent 23,6% des dépenses réelles de fonctionnement, pour un montant de 43 millions d'euros. Les autres charges de gestion courante augmentent de près de 4%, notamment sous l'influence de la hausse de notre contribution au SDIS et du renforcement du partenariat avec l'ALEC en matière de rénovation énergétique. En ce qui concerne les recettes, c'est donc la partie à droite, elles de fonctionnement, elles augmentent de plus 2,1% pour atteindre 218 millions d'euros. 67% de ces recettes sont issues des produits de la fiscalité. Ces produits sont en hausse de 1,42 millions. C'est une hausse inférieure toutefois à celle constatée sur les exercices précédents, puisque entre 2023 ou 2024, suivant les années, on avait ou 2,5 millions ou voire même plus 10 millions entre 2022 et 2023. Ce ralentissement des recettes réelles de fonctionnement résulte principalement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui baisse particulièrement, moins 54%, et qui est liée en fait aux ajustements suite aux dégrèvements importants accordés en 2023 et 2024 par la DGFiP. Les autres recettes fiscales ont augmenté selon la revalorisation annuelle des bases fiscales. Et par ailleurs, sachez qu'en 2025, on a peu bénéficié du dynamisme fiscal en raison du gel des fractions de TVA nationale en remplacement de la taxe d'habitation et de la CVAE depuis 2023. Le second poste des recettes, hormis la fiscalité, ce sont les dotations et les participations. Elles représentent presque 44 millions d'euros avec 20% de la masse totale. Là aussi, les recettes diminuent en raison de la baisse significative de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Par exemple, elle passe pour 2025 de 3 640 000 à 2 550 000. Et donc en 2026, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne percevrons plus cette dotation. J'ai parlé des recettes donc de fonctionnement et des dépenses. On va maintenant s'atteler aux dépenses et recettes d'investissement. Les dépenses réelles d'investissement, donc elles sont de 126 millions d'euros, en hausse de plus de 35% par rapport à 2024, soit presque 33 millions d'euros. Encore une fois, la montée en puissance du PPI. Le taux d'exécution s'améliore aussi fortement, puisque nous sommes à presque 85% de taux d'exécution en 2025. Le corollaire également, c'est que le remboursement du capital des emprunts augmente sous l'effet, effectivement, de la souscription d'un emprunt en 2024. Les recettes d'investissement ont également connu une forte hausse, presque plus 62 millions d'euros. C'est simplement en cohérence avec l'augmentation des dépenses d'investissement. D'abord, il y a la souscription de l'emprunt, 45 millions d'euros, et l'affectation du résultat qui contribue à hauteur de 29% aux besoins de financement de la section d'investissement. Et les subventions et dotations perçues représentent quand même 27% des mêmes recettes d'investissement. Enfin, toujours pour le budget principal et sur les chiffres clés, notamment sur les dépenses d'équipement de 2020 à 2025, ben vous voyez qu'il y a une forte hausse qui commence déjà fortement en 2024 et qui est bien élevée en 2025. C'est effectivement une évolution continue depuis 2021, mais marquée entre 2024 et 2025. Et d'ailleurs, les dépenses réelles d'investissement ont bondi de 35% d'un exercice à l'autre. En ce qui concerne le PPI, donc qui fait 2022-2026, il a franchi un cap important puisqu'il a été réalisé à fin décembre 2025 à hauteur de 50%. Il devrait atteindre fin 2026 75%. Donc il faut simplement dire qu'il y aura encore des reliquats à faire dans ce PPI, mais on est dans un rythme tout à fait normal, correct d'un mandat où effectivement c'est plutôt en fin de mandat que ça s'accélère les dépenses d'équipement. Un focus sur les points les plus importants. D'abord, la transition, transition écologique avec le pavillon de la biodiversité qui a été inauguré. Près de 1 850 000 ont été consacrés à la finalisation de ce projet en 2025. Les soutiens auprès de l'ALEC, les investissements en matière de GEMAPI, donc qui ont augmenté en 2024, 1 740 000. Ils sont portés d'ailleurs sur la création de deux zones d'expansion de crues, à Metz-Vallières et Ventoux, pour le bassin versant du ruisseau de Vallières. Et en parallèle, on a eu des travaux d'opportunité en lien avec cette compétence sur les autres zones humides et hauts lieux. Le déploiement du plan vélo avec la création de nouvelles pistes cyclables s'est poursuivi en 2025, plus de 2,5 millions d'euros, et notamment avec la dernière section d'aménagement de la voie verte reliant Metz à Pournoy-la-Chétive a été livré. Et puis, il y a des pistes cyclables nouvelles qui ont été créées entre Peltre et le CHR de Mercy, ainsi qu'au niveau de l'avenue des Deux Fontaines à Metz. Toujours pour la transition écologique, on a eu les travaux et les études sur les ouvrages d'assainissement qui ont mobilisé 2 140 000, qui ont permis de réaliser le renouvellement de collecteurs à Metz, Moulins-les-Metz, Sainte-Ruffine. Sur la gestion des déchets, l'Eurométropole a poursuivi sa démarche de conteneurisation du centre-ville pour 1 870 000, avec notamment la mise en travaux et en exploitation de nouveaux locaux à déchets situés au 21 en Fournirue et 12 rue Puldemange. Le PPI prévoit également le renforcement du maillage de points d'apport volontaires ainsi que la rationalisation des collectes afin d'en limiter l'émiettement. C'est 2 180 000 euros qui ont été consacrés avec également l'implantation de près de 200 cuves supplémentaires en 2023 et 2024 et un travail qui s'est poursuivi en 2025. Toujours en 2025, le Centre technique métropolitain a poursuivi son extension avec 4 600 000 euros. Un peu plus d'un million d'euros ont permis de verdir la flotte de véhicules de collecte avec les réceptions d'une benne à ordures ménagères électriques et la commande de 4 autres. Et le renouvellement de la flotte de véhicules classiques s'est également poursuivi avec la livraison en 2025 de 4 bennes de 26 tonnes, 4 mini bennes de 3,5 tonnes et 2 bennes de 12 tonnes et 19 tonnes pour presque 2,5 millions. Il convient de souligner, et j'attire votre attention sur ceci, ce qui est peut-être un fait nouveau pour les anciens comme pour les nouveaux, les revenus issus de la TOM de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les recettes dédiées aux déchets, n'ont pas permis de financer les coûts liés à la collecte et au traitement des déchets ménagers en 2025, et c'est une première, en tout cas pour la métropole, et je tenais à le préciser parce que, pour les anciens, comme moi peut-être. Donc c'est la première fois que cela arrive. Mais bon, c'était quand même à le souligner. ce qui évitera d'autres demandes sur le sujet, peut-être. En ce qui concerne un autre versant de nos politiques, c'est le développement économique et attractivité du territoire. Il y a 3 250 000 euros d'avance et de participation qui ont été versés à la SAREM dans le cadre de l'opération de revitalisation du territoire. L'objectif de cette opération est de remettre sur le marché locatif des cellules commerciales vacantes, tout en permettant la rénovation des étages d'habitation. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, c'est 1 650 000 euros qui ont été consacrés en plan de soutien à l'immobilier. Alors, il y a la construction de l'I2L, la rénovation du bâtiment des sciences humaines d'art au Solsy ou l'Institut de la photonique. Le plan d'investissement en faveur des filières, également des équipements et des formations d'excellence. En fait, toutes ces exemples sur l'enseignement supérieur. Par ailleurs, en matière de numérique, la première tranche du déploiement du réseau privé métropolitain a été lancée, permettant de renforcer l'interconnexion des équipements métropolitains, particulièrement les systèmes de vidéoprotection et les infrastructures avec le centre de supervision urbain. Toujours dans le développement économique et l'activité du territoire, il y a les travaux de requalification de l'Opéra Théâtre qui ont démarré à l'été 2025, mobilisant presque 5 millions d'euros sur l'exercice. Des travaux bâtimentaires également sur le musée de la Cour d'Or avec la restauration des thermes antiques et l'aile de François de Curel pour 360 000 euros et l'aménagement de l'aile des Trinitaires qui a mobilisé 408 000 euros. Et en matière de rayonnement sportif, 135 000 euros ont été consacrés à l'organisation de l'édition 2025 de l'Euromarathon qui s'est déroulé le 12 octobre dernier. Et donc, on rappelle qu'il y en a un cette année. J'avais demandé lors du budget de s'entraîner pour le prochain. Un autre volet de nos politiques, c'est la cohésion sociale et territoriale. Les dépenses d'investissement ont particulièrement progressé, notamment en matière d'habitat et logement, sous l'effet de la hausse des aides à la pierre, parce qu'on est à presque 7 millions d'euros, 6 880 000, avec une hausse du taux de subvention octroyé par l'ANA. Les aides attribuées en direct par la métropole dans le cadre de son règlement particuliers d'intervention sont également en hausse. Elles sont à plus d'1 550 000, soit plus de 144 000 de 2024 à 2025. En ce qui concerne la voirie et les espaces publics, les investissements enregistrent une hausse significative aussi en lien avec la concrétisation de nombreux projets prévus au PPI. À Metz, on peut parler de la requalification de la rue Serpenoise, mais également des opérations de redynamisation du quartier Outre-Seille, le parking Coilin qui a été désimperméabilisé et végétalisé, et puis d'autres réalisations financées dans le cadre des enveloppes définies par la CLEC se sont achevées. Par ailleurs, l'Eurométropole a poursuivi son action en faveur de la sécurisation des voies. Des améliorations ont également été apportées au niveau de la signalisation horizontale et verticale. Toujours pour la cohésion sociale et territoriale, la construction de la piscine métropolitaine sur le site des anciennes Al-Solac à Voipis est poursuivie et a mobilisé en 2025 8 640 000. En matière de sécurité, 54 000 euros ont permis d'acquérir divers matériels à destination de la police métropolitaine, notamment de verser une subvention à l'ACMOSC afin d'adhérer au réseau radio du futur. C'est un outil de communication perfectionné à destination des acteurs de sécurité développés par l'État. Et enfin, les fonds de concours aux communes ainsi que le fonds vert ont permis de financer divers projets, notamment la création d'une médiathèque au quartier Lisée à Montigny-lès-Metz, la restructuration énergétique d'écoles maternelles à Rosérieul ou encore l'aménagement du parc du Pâtis en un lieu vert de Voipy. Ça, c'est pour le budget principal. Et donc, il y a également le budget annexe, mais ça sera un peu plus court, mais quand même condensé. Pour le budget annexe transport public, le résultat se compose d'un excédent de fonctionnement de presque 8 millions d'euros et d'un déficit d'investissement de moins de 2 160 000. Donc, ce qui fait un cumulé au résultat antérieur plus de 4,3 millions, et après prise en compte des restes réalisés, le résultat constaté fin 2025, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, est de plus de 9 256 000 euros. Les dépenses sont en augmentation, en fonctionnement principalement liées aux charges à caractère général, sous l'effet de la hausse de la rémunération du délégataire, mais il en est de même pour les recettes, du fait notamment de la progression du produit du versement mobilité. En investissement, en ce qui concerne le budget annexe transport public, l'accélération des projets inscrits au PPI et notamment la création d'une troisième ligne métisse a nécessité de recourir à un emprunt à hauteur de 12 millions d'euros. Ce qui me permet de vous dire que la construction de la troisième ligne de bus à haut niveau de service a vu l'achèvement de la première phase de travaux sur les sections de Metz-Centre et de Marly-Sud. L'ensemble de ces travaux a mobilisé plus de 15 millions d'euros de crédit en 2025. Ces travaux se poursuivent avec l'aménagement de la section englobant les rues du 20e corps américain, Fragnat, Costébellon, ainsi que la place Mazel à Metz, pour une mise en service de ligne prévue en septembre 2027. Il y a eu également les travaux d'extension de la ligne Métis A vers l'hôpital Schumann qui se sont achevés avec une prolongation effective depuis septembre 2025 pour un montant total de près de 5 millions d'euros. Et le verdissement de la flotte de véhicules de transport qui s'est concrétisé avec l'acquisition de divers matériels, plus de 4 millions d'euros, avec des bus, des véhicules, versement d'avance pour l'acquisition de véhicules à hydrogène, dont la livraison est prévue en 2026, mais également de minibus et bus pour le transport de personnes à mobilité réduite. En ce qui concerne le budget annexe archéologie préventive, le résultat de l'exercice présente un déficit de 166 000 euros et avec les résultats cumulés, avec celui cumulé de l'exercice précédent, le résultat global de clôture s'élève à moins 773 000 euros et des broutilles et la subvention du budget principal s'est élevée pour 2025 à 890 000 euros et pour mémoire c'était 940 000 euros en 2024. En ce qui concerne le budget annexe déchetterie, le résultat du budget annexe présente un excédent en fonctionnement et en investissement. Et donc, il nous donne un résultat global de clôture qui s'élève à plus de 2 142 000 par ailleurs. Et celui du budget annexe de zone en régie, en fin 2025, il affiche un déficit de 2,6 millions. Cumulé au résultat antérieur, le résultat global de clôture s'affiche avec un excédent de près de 290 000 euros. Voilà, résumé, mais en essayant d'être complet, les différents budgets pour 2025. Donc on a bien regardé le rétroviseur, c'est ce qui s'est passé l'année dernière.
Merci à M. Horry. Est-ce qu'il y a des observations, des questions? Oui, M. Séjourné. Monsieur Roch, Monsieur Mertz, d'autres demandes de parole? Non? Monsieur Séjourné, alors. Secondé, pardon.
C'est pas bien grave.
Excusez-moi.
Monsieur le vice-président et chers collègues, alors je ne vous étonnerai pas en disant que je n'ai pas du tout la même lecture que de ce rapport que Monsieur Horry. Avant tout, merci au service pour la réalisation de ce rapport qui est vraiment bien fait. Je commencerai en disant que si le budget est un acte politique où l'idéologie est susceptible de se faufiler, le compte financier, ex-compte administratif, est lui juge de paix. Peu de possibilités de présenter joliment les choses, les chiffres parlent. Et j'ai le sentiment à la lecture de ce rapport justement que le verdict est malheureusement cruel pour l'exécutif. Alors je distingue d'abord dans ce rapport la démonstration en creux qu'il contient de ce que je soulignais lors du récent débat budgétaire. On y voit les prémices de la rupture du modèle financier en vigueur jusqu'ici avec des dépenses d'équipement maintenant largement assurées par l'endettement. 57 millions d'euros ont été empruntés en 2025. La dette croît cette année-là de près de 25%. Cela, c'est du fait d'une planification des investissements mal pensés qui nécessite des ressources très élevées sur les deux dernières années du PPI et qui vous piège. Les budgets ne peuvent s'équilibrer que par la dette avec des hausses historiques de l'emprunt, donc de 57 millions d'euros en 2025 et de 71,2 millions d'euros pour mémoire en 2026. L'optimisation de la charge financière des emprunts passe par une stratégie d'investissement claire, un échelonnement des investissements avec des priorisations, un respect du calendrier, toute chose que l'exécutif n'a pas su faire. Car il faut investir, évidemment, et s'endetter pour répondre aux besoins réels de la population et à la condition d'une trajectoire de dette gérée intelligemment, ce qui n'est pas le cas pour notre métropole. Parce que les investissements ont tardé et qu'il faut procéder dans la précipitation à leur lancement en fin de période de PPI, la machine s'est grippée. Je vais répéter ce que la Cour régionale des comptes dit dans son rapport d'octobre 2025. Entre 2022 et 2024, peu a été dépensé au titre du PPI sur le total des investissements prévisionnels. Et c'est particulièrement clair en ce qui concerne les transports en commun. Seuls un peu plus de 19 millions ont été dépensés au titre du PPI, dont plus de la moitié en 2024, sur un total de 122 millions d'euros d'investissements prévisionnels. Un autre rapport de la Chambre régionale des comptes sur la métropole de Metz indique que le précédent PPI, donc 2016-2020, s'était traduit par des dépenses de 170 millions d'euros sur 191 millions d'euros prévus, soit environ 89% d'exécution. Alors avec toutefois des réalisations qui ont été décalées sur 2020, effectivement, mais qui, si on les prend en compte, conduisent tout de même à un taux de réalisation de près de 80%. 80-85% sont les taux de réalisation que la Chambre régionale des comptes considère comme performants. 80%, c'est par exemple la prospective financière associée au PPI du mandat 21-26 de l'Eurométropole de Strasbourg. La question est donc, même si vous parvenez, et ce qui est hautement improbable, à effectuer un saut de 27% de taux de réalisation du PPI en une année, pour mémoire, vous avez fait passer le taux de réalisation de 36 à 48% entre 2024 et 2025. Pourquoi est-ce que le résultat restera-t-il médiocre en comparaison de ce qui s'est fait avec l'avant-dernier PPI et ce que visent les autres EPCI de la région qui ont, elles, aussi dû faire avec la Covid, la guerre en Ukraine, les coupes budgétaires de l'État que vous convoquez copieusement comme explication? La page 26 du rapport qui nous est présenté est édifiante et inquiétante. Modalité durable, 44% réalisée à un an de la fin du PPI. Mieux vivre et habiter sur la métropole, 36% de réalisée du PPI. Transition énergétique, 29% du PPI. Et les dépenses d'investissement en matière de sensibilisation aux enjeux écologiques, de transition énergétique, le transport, mobilité, intermodalité recule par rapport à 2024, vous pouvez le voir en page 31. Patrimoine culturel et attractivité, 28% de réalisation du PPI. Pour ce qui est des investissements en matière de sécurité, là le taux de réalisation prévisionnel à l'issue de la période est lui de 91%. Clin d'œil, est-ce que c'est l'effort financier associé à la ligne relative au matériel et réseaux de surveillance qui pèse de manière déterminante dans ce score ? La question de la soutenabilité d'une stratégie offensive d'investissement est apparue évidente à la vue du budget 2026. Mais elle existe en fait déjà largement en germe dans ce compte financier. Recul de l'épargne brute, fonctionnement en tension, recettes stagnantes, recours massif à l'emprunt, les conséquences de votre attentisme, de vos mauvais choix, de vos priorités ignorantes des besoins urgents s'y inscrivent de manière implacable. Je crains beaucoup que pour nos transports en commun déficients, la cohésion sociale et territoriale en souffrance, que ceux-ci en fassent durablement les frais. Je vous remercie.
Monsieur Roch.
Chers collègues, pour ma part, je concentrerai l'ensemble de mon intervention sur le budget annexe transport. Les chiffres de 2025 sont clairs. Cette année encore, notre réseau de transport en commun est excédentaire, et cela malgré des efforts d'investissement beaucoup plus élevés que les années précédentes. En 2025, le budget annexe du transport public affiche un résultat global de clôture excédentaire de 5,8 millions d'euros. Comment est-ce possible ? Malgré des dépenses de fonctionnement en hausse, 74,6 millions d'euros, des recettes de fonctionnement largement supérieures, 82,6 millions d'euros, dont 57,9 millions d'euros de versement mobilité, soit un excédent de fonctionnement de près de 8 millions d'euros. Même si l'investissement génère un léger déficit de 2,16 millions d'euros, le solde global reste largement positif, comme je le disais, à 5,8 millions d'euros. Certains diront que cet excédent est un bon point pour nos services publics de transport en commun. Cela est faux. Il est le résultat d'un manque d'investissement dans le réseau, d'un manque de services publics, d'un manque de tarifs accessibles pour les habitantes et les habitants de notre métropole. En effet, ce résultat excédentaire se fait pourtant lors d'une année d'investissement qui est, à comparer aux années précédentes, des investissements importants. 38,6 millions d'euros investis en 2025, plus 101% par rapport à 2024. Rappelons pour exemple que le résultat 2024 du budget annexe transport était lui-même excédentaire de 6 millions d'euros. Il ne s'agit donc pas cette année d'une situation exceptionnelle, il s'agit d'une situation structurelle. Notre métropole gagne de l'argent sur le dos des usagers du transport en commun. Notre métropole gagne de l'argent sur le dos du financement des transports en commun par les entreprises du territoire via le versement mobilité. Le constat est pourtant simple, ici comme ailleurs, dans toutes les métropoles de France et d'Europe, plus nous investissons dans la qualité de service, plus les habitants utilisent le transport en commun. Malgré les faibles investissements à Metz et dans la métropole, on note une hausse de la billetterie, plus 211 millions d'euros, pour atteindre 16,4 millions d'euros. Une progression soutenue par une fréquentation dynamique et un versement en mobilité qui lui aussi est en hausse du fait de l'attractivité économique de notre territoire. Ces leviers, nous devons les utiliser, non pas pour rentrer de l'argent des usagers ou des entreprises dans les poches de la collectivité, mais pour investir massivement dans notre réseau. Car si le transport en commun rapporte de l'argent actuellement, rappelons-nous que son objectif est de rapporter à nos concitoyennes et nos concitoyens de la qualité de vie, du désenclavement, moins de pollution, plus de transition écologique et non pas des rentrées d'argent pour notre collectivité. Pour aller plus loin, convertir de plus en plus d'usagers, deux leviers sont indispensables et possibles grâce à notre budget transport excédentaire. Le premier levier, accélérer l'investissement pour un réseau de qualité, finaliser bien sûr la ligne 3 du Métis qui est largement en retard, mais préparer dès aujourd'hui les suivantes et les mettre d'ores et déjà à l'étude. Améliorer la fréquence et la ponctualité, notamment aux heures de pointe. Augmenter les plages horaires des bus, en horaires du matin, en horaires du soir, de nuit, pour que le bus devienne le moyen de transport le plus pratique, le plus rapide. Deuxième levier, rendre le transport accessible à toutes et tous avec une gratuité progressive, car le coût reste un frein pour certains. Agissons en mettant en place la gratuité d'abord pour les jeunes et offrons la gratuité pour les personnes les plus précaires. Faisons en sorte que demain, prendre les transports en commun soit le choix évident pour tous les Messines et les Messins et qu'ils ne rapportent plus d'argent à la métropole. Merci.
Monsieur Mertz.
Monsieur le Président de séance, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, une remarque liminaire d'abord, si vous permettez. Pour avoir déjà présidé un exécutif territorial, il me semble que si le maire ou le président de l'EPCI doit quitter la salle de délibération au moment du vote concernant le compte administratif ou maintenant le compte financier, il me semble qu'au moment de la présentation du compte et au moment des débats, il n'est pas obligé de partir. Je le dis, en tous les cas, c'est comme cela que j'avais pratiqué. Deuxième observation. Il s'agit pour nous, nous trois élus de notre modeste groupe, de porter une appréciation sur un compte financier qui est en rapport avec une gestion à laquelle nous n'avons pas participé. Et donc vous comprendrez qu'au moment du vote, nous nous abstiendrons tout simplement, considérant que nous n'avons pas à émettre un vote sur une gestion à laquelle nous n'avons pas participé. Mais vous me permettrez tout de même, à cet instant, de vous donner quelques appréciations sur ce que nous apprend ce compte financier. Et je dois dire que monsieur le rapporteur en a fait une présentation très avantageuse, ce que je peux comprendre, c'est son rôle, en nous indiquant, par exemple, que le résultat de clôture nette est positif à hauteur de 2 852 000 euros. Je passe les décimales. En réalité, ça a déjà été dit, il s'agit d'un affichage. Car ce qu'il faut regarder, c'est le réel. Et si on regarde en section d'investissement le réel, c'est-à-dire les vrais travaux qui ont été payés et les vraies subventions qui ont été encaissées, le solde est négatif à hauteur de 4 500 000 euros. Et pour afficher un solde d'investissement total positif de plus de 15 millions d'euros, vous avez massivement injecté plus de 19 millions d'euros via des écritures d'ordre, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire des virements de la section de fonctionnement. La section investissement ne s'autofinance pas par des recettes propres, c'est-à-dire par des subventions, des taxes d'aménagement, etc., elle vit en réalité sous perfusion des virements de la section de fonctionnement. Et la section d'investissement, donc, qui vit sous perfusion, eh bien, elle n'a pas trouvé dans la gestion qui est la vôtre, l'ampleur que l'on pouvait attendre s'agissant d'une métropole comme celle de Metz, mais j'y reviendrai dans un instant. Et puis, le résultat cumulé d'investissement, lui, est lourdement déficitaire à hauteur de plus de 11 millions d'euros. C'est notamment à cause du poids d'un résultat antérieur reporté négatif de 26,1 millions d'euros. En fait, la collectivité, plus exactement le PCI, traîne une dette d'investissement ou un retard de financement des investissements passés comme un boulet. Et si on regarde le reste à réaliser en dépenses, elle s'élève à 12 578 000 euros contre seulement 7 878 000 euros en recettes. Le solde du reste à réaliser ampute le résultat de clôture de 4 699 000 euros. On assiste donc à une sous-réalisation chronique des investissements parce que vous avez voté des budgets d'investissement ambitieux mais qui n'ont pas été menés par des chantiers à terme au cours de l'année avec 12,5 millions d'euros reportés. Et ces chantiers reportés n'ont pas été financés à due proportion des recettes reportées. C'est donc le premier constat qu'on peut faire. Il s'agit d'un véritable affichage. Bon, c'est souvent le cas en la matière. Mais moi, j'invite notre Assemblée à réfléchir à cela. Et je vais y revenir dans ma conclusion. Si on regarde le budget annexe des transports, c'est un budget important, plus de 100 millions d'euros, on voit que, toujours en réel, regardons les choses en réel, les dépenses d'investissement sont de l'ordre de 38,6 millions d'euros et les recettes réelles sont de 27,4 millions d'euros, soit un déficit réel de plus de 11 millions d'euros et le résultat cumulé d'investissement plonge de 12 158 000 euros. En fait, comme le budget principal, celui-ci est sauvé par un virement d'ordre du fonctionnement, de la section fonctionnement de plus de 9 millions d'euros. Mais c'est une question très importante, la question des transports, et elle devrait nous occuper, à mon sens, dans un véritable débat stratégique sur ce qu'il y a lieu de faire en la matière. Il ne s'agit pas simplement d'aligner des chiffres, il s'agit de savoir ce que nous voulons faire, où nous voulons aller, et quels moyens nous nous donnons pour cela. Le budget archéologie, j'en dis quelques mots très rapidement, lui, il est en faillite technique, avec un résultat cumulé de fonctionnement négatif de 180 000 euros, 185 000, et un résultat cumulé d'investissement de moins 588 000 euros pour un résultat de clôture globale négatif de 773 000 euros. Et donc on se demande comment un service d'archéologie peut cumuler un tel déficit. Le budget annexe déchetterie, lui, c'est le contraire. Il est de plus de 2 millions d'euros d'excédent, ce qui veut dire simplement que la taxe qui est prélevée sur les contribuables est trop importante et que nous pourrions prendre des décisions, soit de consacrer ces sommes à des investissements, et alors il faut dire lesquels, soit de diminuer cette taxe et de rendre au contribuable une partie de ce qui lui a été pris. Enfin, le budget annexe zone en régie, qui est un budget lié aux activités économiques, en fonctionnement, on a des dépenses réelles de 3,5 millions d'euros, qui sont largement supérieures aux recettes réelles de 538 000 euros, soit un déficit réel de plus de 3 millions d'euros. A l'inverse, l'investissement affiche un excédent réel de 404 000 euros, avec seulement 1140 euros de dépenses réelles. Et donc, on se demande pourquoi les dépenses de fonctionnement ont explosé. Voilà la présentation que je veux faire, et je veux le dire d'une manière toujours constructive. Je pense que, et c'est pour cela que nous allons nous abstenir au moment du vote, la photographie que représente le compte financier, qu'on appelait avant le compte administratif, c'est le moment pour une collectivité, pour un EPCI, de s'interroger sur ce qu'il a fait, comment il l'a fait, où il veut aller. Et je pense que ce débat doit prolonger évidemment le débat d'orientation budgétaire, puis le débat budgétaire, et on a tendance à répéter les mêmes choses à chaque fois. Mais nous ne pourrons pas faire l'économie dans l'intérêt de la métropole et de ses habitants d'une véritable réflexion stratégique sur ce qu'il y a lieu de faire, je l'avais dit lors de notre précédent débat, et des moyens que nous voulons y consacrer et des moyens que nous voulons nous donner. Et donc je suggère que nous ayons un véritable débat en dehors de toute considération politicienne, et c'est pour ça que j'indiquais tout à l'heure que ça ne doit pas fonctionner comme un conseil municipal avec une majorité, une opposition qui s'acharpe, etc., mais par la recherche de l'intérêt général à travers un débat pour savoir où est-ce que nous voulons emmener cette métropole. Parce que, je l'avais dit aussi lors du précédent débat, les métropoles ont été pensées comme un instrument d'abord au service du développement du territoire et notamment du développement économique. Parce que souvent nos villes sont trop petites. Et donc nous devons utiliser ce levier pour savoir, au moment où notre monde et notre société connaissent des bouleversements considérables, et je ne vais pas vous refaire la litanie sur l'intelligence artificielle qui va probablement bouleverser totalement nos sociétés, le travail, l'organisation du travail et la société en général, et tous les bouleversements en rapport avec ce qui se passe au plan géopolitique actuellement dans le monde, notamment par rapport à la question de l'énergie, qui n'est pas sans rapport avec celle du réchauffement climatique. Comment voulons-nous utiliser cet instrument qu'est la métropole, qui est censé avoir la bonne taille, à mon avis en articulation avec la région et évidemment avec l'État, comment voulons-nous l'utiliser pour répondre aux défis de notre temps, c'est-à-dire ceux auxquels nous sommes confrontés et dont nous voyons bien à l'heure actuelle à quel point il pèse lourdement sur l'avenir de nos sociétés et de nos enfants. Voilà la suggestion que je vous fais, Monsieur le Président de séance, pour nos prochains débats, et je vous remercie de votre attention.
Monsieur Emmanuel Le Bouet a demandé également la parole.
Monsieur le Président de séance, chers collègues, après avoir entendu ces quelques interventions, je suis obligé de dire un élément. La gratuité des transports en commun peut sembler attractive, chatoyante, aux premiers abords, mais il faut être lucide. La gratuité n'est jamais gratuite. Quelqu'un paye toujours la facture. Et ce sont souvent les contribuables qui y sont. Dans un contexte où nos finances sont déjà sous tension, avec une hausse des investissements et de la dette qui a été soulignée, et je voudrais quand même qu'on me dise des choses, c'est-à-dire qu'il y a un intervenant qui souligne la hausse de la dette et évoque la baisse du taux de réalisation. Alors, c'est la quadrature du cercle. Comment on peut ne pas vouloir que la dette augmente et vouloir plus de taux de réalisation? C'est antinomique, hein, les deux, mais... Voyons. Donc, sur ce débat sur la gratuité des transports en commun, supprimer totalement les recettes tarifaires reviendrait à fragiliser notre capacité à améliorer le réseau. Notre priorité doit rester la qualité du service. Plus de fréquences, des lignes performantes, des bus propres, des extensions comme le Métis 3 et un réseau fiable pour les habitants. La vraie justice sociale... Ce n'est pas forcément la gratuité pour tous, y compris pour ceux qui peuvent payer. C'est plutôt une tarification adaptée, ciblée vers ceux qui en ont plus besoin, ce qui existe aujourd'hui. Soyons pragmatiques. Mieux vaut un bon réseau accessible qu'un réseau gratuit mais affaibli financièrement. La métropole ne gagne pas d'argent, contrairement à ce qui a été dit. Les excédents vont servir à financer les importants réalisation, le verdissement de la flotte, un coût énorme le verdissement de la flotte, la ligne 3, alors je...
Oui, le seul qui parle c'est Monsieur Lebeau s'il vous plaît.
Ne vous inquiétez pas,
Non, mais on entend dès, également un brouhaha ici, non, c'est
dès,
pour ça.
Dès que j'interviens et que je dis des vérités, ça fait toujours
ça peut gêner.
Un bruit de fond. Donc je dis simplement... La métropole ne gagne pas d'argent. Elle a des excédents pour pouvoir financer ses investissements futurs de demain. Et à terme, le budget annexe ne sera plus excédentaire. Il sera déficitaire du fait de toutes les réalisations. Alors, certes, il faut regarder en arrière, dans le rétroviseur, mais quand on conduit une voiture, on regarde et dans le rétroviseur, et surtout dans le pare-brise, pour éviter de finir dans le fossé. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur Lebeau. Monsieur Horry, pour quelques
précisions. Oui, deux, trois éléments. Je suis d'accord, et l'un des intervenants a dit que certains orateurs avaient tendance à répéter, oui, vous avez tendance à répéter les mêmes informations et présentations erronées. Ou des affirmations quand on parle d'endettement historique ou d'emprunt historique. Je vous rappelle que notre capacité de désendettement est en 2025 de 4 ans. Il y a une quinzaine d'années, la métropole frisait les 10, 11 ans de capacité de désendettement. On est particulièrement tout à fait correct sur ce domaine-là. Et donc, je voulais remettre un petit peu l'église au milieu du village, parce que pour ceux qui ont une mémoire sélective ou trop courte par ailleurs. Et puis, au niveau des différents orateurs, je vous invite à ajuster forcément vos lunettes parce que ou votre vision des comptes, parce que là, on entend sur l'un des budgets, on a des excédents et c'est pas bien. Un autre budget, on investit, mais trop, c'est pas bien non plus. En fait, on fait tout faux, quoi, si j'ai bien compris. Mais ça, c'est quand on est dans l'opposition. Et donc, je voudrais juste vous dire que, d'abord, et j'ai pourtant particulièrement insisté dans la présentation, une nouveauté, l'atome ne suffit plus à, contrairement à ce qui a été affirmé par l'un des orateurs, mais l'atome ne suffit plus à, donc, à financer l'ensemble des investissements. Et paraît-il, c'est plutôt vertueux d'être dans ce cas de figure-là, admettons. C'est comme ça que la Chambre régionale des comptes, d'ailleurs, regarde ceci. Et donc, on va admettre que c'est vertueux. Mais surtout, je voudrais rappeler deux points. On a dit à un moment donné, on a parlé des taux d'exécution. Ben justement, en 2025, le taux d'exécution des dépenses d'investissement, et c'est ça le plus important, il frise les 85%. Et c'est là où c'est peut-être l'essentiel, c'est là où nous avons la vérité. Et j'ai souhaité qu'on vous remontre l'évolution des dépenses d'équipement, effectivement, de 2020 à 2025, puisqu'on est en train de parler normalement de 2025. Et j'attire quand même votre attention pour ceux, encore une fois, qui auraient la mémoire courte. Mais qu'est-ce qui s'est passé de 2020 à 2022 ? Il y a accessoirement le Covid, accessoirement la crise énergétique avant la guerre en Ukraine, parce que je me souviens bien des débats de fin 2021 avant ceci, et donc de l'explosion des factures de chauffage, d'électricité, etc. Et donc... dire ou pouvoir affirmer que nous faisons fausse route en occultant à la fois l'intervention de l'État, et on connaît la situation de l'État qui finalement est en train de combler ses trous grâce à nous, les collectivités locales, et oublier tout ce qui s'est passé pendant les deux premières années, ou trois premières années presque, c'est 2020, 2021, 2022, et je me souviens encore en 2022, on a eu en janvier encore des confinements. Et donc, quelque part, c'est finalement présenter les choses d'une manière fallacieuse. Donc, je vous invite effectivement à voter largement ce compte financier unique, mais surtout de le regarder au regard de l'apprécier plutôt au regard des éléments que je viens de vous préciser. Merci.
Merci, Monsieur Horry. Je souscris, bien sûr, à la fois les propos de Monsieur Lebeau et de Monsieur Horry. C'est vrai que c'est toujours compliqué d'entendre dans une même intervention le fait de pouvoir entendre que nous avons à la fois trop endetté la métropole à un moment donné, en disant qu'on ne sait pas forcément gérer. Je pense que l'ensemble des collectivités et ceux qui sont en charge des collectivités, quelles qu'elles soient, démontrent tout simplement quand on a 4 ans, on va dire, de nombre d'années de désendettement, c'est une collectivité qui est très bien gérée. Et je pense que ça, c'est des choses aussi qu'il faut qu'on puisse notamment bien identifier. Bien sûr, c'est pas de se cacher derrière notamment la Covid, hein, monsieur Séjourné, secondé, pardon, qu'on a identifié ces différents points. Mais c'est surtout, on va dire, de pouvoir, à un moment donné, amener des faits. Quand on regarde l'ensemble de toutes les collectivités, on a été tous, on va dire, en attente en 2020 et 2021. Rappelez-vous aussi que la métropole est une jeune métropole qui a pris aussi des nouvelles compétences, qui a nécessité également des interventions spécifiques avec également un cadre qui était présent, qu'on a dû récupérer. Quand vous regardez l'ensemble des travaux voiries qui ont été montrés, n'oubliez pas qu'à un certain moment, la compétence n'était pas métropolitaine, elle était départementale. Donc il y a aussi une nécessité de faire avec ce qui nous a été transmis, cette volonté tout simplement de pouvoir travailler avec un PPI qui fonctionne et sur lequel on va s'appuyer bien sûr sur les années qui restent. La courbe le démontre encore, que vous voyez ici sur l'écran. Quand vous multipliez minimum par 3 les investissements entre 2020-2021, et on est largement supérieur à ceux qui étaient présents également en 2019. Donc ça montre que nous investissons dans l'avenir et que nous souhaitons à notre métropole à la fois une sérénité tout en gérant bien. Donc je pense que quand on a ces éléments à la fois d'un endettement faible, d'un investissement lourd, des travaux qui sont identifiés, nous sommes, en tout cas, c'est de cette manière-là que je la vois, nous sommes sur la bonne voie. Concernant les transports, monsieur Roch, Vous savez, à un moment donné, il y a aussi des investissements qui doivent pouvoir se faire et nous avons à la fois des travaux lourds, une vision qui sera aussi plus large, des développements qui se font aussi dans toutes les communes avec une nécessité aussi d'y répondre. Ça a été identifié lors de plusieurs commissions sous le précédent mandat avec une volonté d'évolution également du réseau de transport. Une gratuité complète des transports, c'est 21 millions d'euros. On les trouve où, Monsieur Lebout, là ? Il a bien précisé. C'est qu'à un moment donné, c'est pas gratuit. Il faut les rechercher, il faut les trouver. Et ces montants-là, il faut aussi pouvoir notamment soit les récupérer à un endroit pour pouvoir les positionner à un autre endroit. Mais en tout cas, ce n'est pas par le biais également des différentes dotations et des retours de taxes qu'on va pouvoir notamment le faire. Alors, c'est vrai, en termes d'investissement, il nous reste encore des caps à franchir, des travaux à exécuter. De vouloir, en l'occurrence, annoncer que vis-à-vis de l'atome, nous n'utilisons pas l'intégralité de l'atome. M. Horry vient de le repréciser, les sommes sont largement utilisées. Nous sommes encore en manque de déchetterie, donc ça va nécessiter encore des investissements supplémentaires. Il y a une nécessité également de revoir le principe des déchets et également de la manière dont les collectes se mettent en place. Et c'est ce qui a été fait au centre-ville de Metz et également auprès de tous les bailleurs sociaux à proximité des logements. Cette volonté notamment d'adapter une récupération des déchets qui soit la plus efficace possible et la plus respectueuse possible aussi. Donc c'est aussi un travail sur le long terme qui est mené. Alors notre volonté, ce n'est pas forcément de diminuer, d'augmenter les différentes taxes et de pouvoir faire ce levier-là, sachant qu'on est sur cette bonne voie. Notre volonté, c'est de pouvoir perdurer avec ces actions-là, de conserver l'atome, et ça a été précisé, au montant qui a été identifié pour la simple et bonne raison qu'on sait également les investissements qu'on va devoir faire encore dans les années à venir. Concernant le transport, le maillage, bien sûr, va aussi se développer et cette volonté, en l'occurrence, de pouvoir répondre à des différentes demandes de la part de nos différents administrés, parce que notre finalité, c'est de répondre aux besoins. Et les besoins sont bel et bien là et notre volonté est réellement de pouvoir y répondre. Donc on continuera à travailler dans ce sens-là, avec cette volonté à toujours de pouvoir anticiper et prévoir, parce que c'est aussi notre rôle, notamment en tant qu'élu, d'amener ces actions-là et de pouvoir justement prévoir également un avenir des plus sereins ici pour la métropole. Donc bien sûr, nous sommes prêts, l'exécutif qui était en place sur l'année 2025 et l'ensemble des personnes qui le représentent aussi là, parce qu'on attaquait l'exécutif lors des différents propos, bien sûr sera à la tâche comme il se doit et comme il sait le faire pour pouvoir répondre également à ces différents besoins et ces différentes demandes avec cette volonté de continuer à développer et à faire rayonner la métropole de Metz. Sur ce, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre ? Ah, il y a plusieurs motions ? Donc c'est juste la dernière.
La 3 et la 4.
Donc on part bien du vote du compte financier unique 2025. Donc qui est contre ? 4. Qui s'abstient ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Et ensuite, c'est la motion 4 qui est le bilan des autorisations de programme de l'Eurométropole de Metz au 31 décembre. Pas d'intervention, donc je vous propose de passer aux voix également. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 11 abstentions. Donc le point est terminé. Le président peut revenir à ce moment-là. Je vais laisser.
Pour l'affectation du résultat.
Pour l'affectation de résultats, il peut être présent.
Bien.
bien, donc, point numéro 7, l'affectation du résultat de l'exercice 2025. La
oui.
parole est à Thierry Horry.
Après constatation du résultat de fonctionnement pour le budget principal et les budgets annexes, l'Assemblée délibérante doit affecter tout ou partie de ce résultat à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement. Il faut juste savoir que le budget annexe zone en régie, qui est soumis au régime spécifique et obligatoire de la comptabilité de stock, il est là, pas nécessaire d'affecter le résultat de fonctionnement à la couverture du besoin de fonctionnement de la section d'investissement, puisque ce besoin ne résulte que du décalage temporel entre la réalisation des aménagements et la cession des terrains. Et pour mémoire, le résultat 2025 du BP et des budgets annexes a fait l'objet d'une reprise anticipée lors du budget primitif 2026. Il convient juste de confirmer les reprises ainsi opérées. Donc la motion 1, c'est l'affectation du résultat pour le budget principal avec un report de section d'investissement à moins 11 069 000 euros, une couverture de besoin de financement à plus 15 768 000 euros et un report en section de fonctionnement à plus 2 852 802 euros. L'affectation du résultat de l'exercice 2025 du budget annexe déchetterie s'établit comme cela, donc report en section d'investissement plus 125 000 euros, pas de couverture de besoin en financement et un report en section d'exploitation de plus de 2 017 000 euros. En ce qui concerne le budget annexe archéologie, le report en section d'investissement est de moins 588 000 euros 499, pas de couverture du besoin de financement de la section d'investissement et un report en section de fonctionnement de moins 185 229 euros. L'affectation du résultat de l'exercice pour le budget annexe transport public, alors il y a le report de la section d'investissement moins 12 158 776, une couverture de besoin de financement de la section d'investissement à 11 967 340, les réserves réglementées à 1 049 211 et le report en section d'exploitation à 9 256 978. Et pour le budget annexe zone en régie, on confirme également l'affectation du résultat de la manière suivante, avec un report en section d'investissement de moins 13 089 181 et un report en section de fonctionnement de plus 13 379 743 euros. Voilà, les motions sont en conséquence.
Merci. Alors, qui demande la parole ? Personne ne demande la parole. Donc, on vote donc sur la première motion, l'affectation de résultats pour le budget principal. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, alors, groupe RN, groupe LFI, groupe PS derrière, je les vois moins bien, ils sont masqués par LFI, voilà, vous savez, je vois, ouais, ouais, et M. Grégoire. Voilà. Les autres votent pour. Non, ça, c'était contre.
L'abstention.
Abstention.
Abstention.
On est d'accord, c'est abstention. Hein.
Oui.
Bon, et donc les autres votent pour. Sur l'affectation du résultat du budget annexe déchetterie, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Même vote ? Bien. Sur la motion numéro 3, donc le budget annexe archéologie préventive, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Même vote ? Sur le budget annexe transport public, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Sur le budget annexe des zones en régie, qui vote contre, qui s'abstient, même vote. Et nous avons fini. Nous passons au point numéro 8, la modification de la tarification social du conservatoire à rayonnement régional.
Monsieur le Président, chers collègues, par cette délibération, il nous est proposé d'adopter la grille tarifaire du conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné de l'Eurométropole de Metz pour l'année scolaire 2026-2027. Je voudrais d'abord rappeler le principe général. Depuis 2018, le conservatoire applique une tarification sociale. Cela signifie que les tarifs ne sont pas uniformes pour toutes les familles. Ils tiennent compte notamment des revenus, de la composition familiale et de la domiciliation. L'objectif est simple, permettre au plus grand nombre d'accéder à un enseignement artistique de qualité, qu'il s'agisse de musique, de danse ou de théâtre. Chaque année, cette grille tarifaire est réexaminée par le Conseil métropolitain. Il ne s'agit donc pas ici de créer un nouveau dispositif, mais d'ajuster la grille existante pour l'année scolaire à venir. Au cours des années passées, plusieurs adaptations ont été décidées. Certaines répondaient à un contexte exceptionnel, comme l'exonération des frais de dossier après la crise sanitaire. D'autres ont permis d'affiner la grille, par exemple en distinguant les élèves de moins de 26 ans ou les adultes de plus de 26 ans, ou encore en tenant compte de dispositifs spécifiques comme des MOS, les classes préparatoires théâtre ou les étudiants boursiers. Pour l'année scolaire 2026-2027, il s'agit d'actualiser les frais scolarité en fonction de l'inflation connue pour l'année 2025, soit 1%. Concrètement, cela permet de tenir compte de l'évolution générale des coûts tout en maintenant le principe d'une tarification sociale adaptée aux situations des familles. La délibération prévoit également une modification de lexique. Le tarif 3, jusqu'ici intitulé parcours préprofessionnel, sera désormais appelé cycle préparatoire. Cette nouvelle appellation correspond mieux aux parcours concernés, notamment ceux qui se préparent à l'enseignement supérieur artistique. En résumé, cette délibération poursuit trois objectifs. Maintenir une tarification sociale, actualiser les tarifs de manière mesurée et rendre la grille plus lisible pour les familles et les usagers. La commission consultée a été le bureau et il vous est donc proposé d'adopter cette délibération.
Merci. Quelqu'un demande la parole ? Alors, oui. Madame le Duc et Madame Comte. Ouais. Madame le Duc.
Oui, merci, Monsieur le Président. En préambule, je vous demanderais, s'il vous plaît, de nous considérer comme le groupe d'union de la gauche et des écologistes. Non pas que ça me déplaise que vous nous appeliez LFI, il faut vous préparer à ça pour l'année prochaine massivement et c'est très bien, mais par respect pour la fusion de nos listes avec la liste des écologistes, je vous demanderais s'il
ça
vous plaît.
Ça fait un peu long, hein.
Voilà. Donc, de nous appeler par notre nom. Nous opposerons à ce point, puisqu'il est proposé au Conseil l'actualisation de l'ensemble des frais de scolarité en indexant ces derniers au taux d'inflation. Et le problème, c'est que le but de la tarification sociale, c'est notamment de protéger les plus fragiles, notamment de l'inflation. Et on considère que la hausse pourrait concerner uniquement les tranches les plus hautes. Et c'est pour ça que nous voterons contre. Merci.
Alors, Madame Comte.
Monsieur le Président, chers collègues, nous parlons souvent d'égalité des chances, d'émancipation, d'accès à la culture. Mais ces principes doivent se traduire concrètement. À Metz Métropole, nous avons la chance de disposer d'un conservatoire de qualité. C'est un atout. Mais il ne faut pas confondre existence d'une offre et accessibilité réelle. Beaucoup d'enfants n'y mettront jamais les pieds, pour des raisons sociales, géographiques, organisationnelles ou tout simplement parce que dans certaines familles, l'univers culturel semble trop éloigné. Or, la culture ne doit pas être réservée à ceux qui savent déjà comment y accéder. Si nous voulons une politique culturelle véritablement ambitieuse et démocratique, elle doit commencer là où sont tous les enfants, c'est-à-dire à l'école primaire. La musique n'est pas un supplément d'âme pour quelques privilégiés. C'est un formidable outil d'apprentissage, de concentration, de socialisation, de confiance en soi, parfois même de réparation pour certains enfants. La vraie question politique est donc celle-ci. Voulons-nous une culture qui attend le public ou bien une culture qui va à sa rencontre ? Metz Métropole pourrait renforcer les partenariats entre conservatoires, intervenants musicaux et écoles primaires, notamment dans les quartiers où l'offre culturelle reste le plus distante. Parce que révéler un talent à 7 ans peut parfois changer une trajectoire de vie. En tant qu'ancienne directrice d'école parisienne, je me tiens à disposition avec mon groupe pour échanger sur ce point afin de promouvoir ensemble l'excellence dans toutes les écoles messines. Nous sommes prêts à y contribuer. Je vous remercie.
Je vous remercie, Madame Comte. Alors, je voudrais dire, Madame Leduc, que c'est quand même assez extraordinaire avec vous. Vous n'êtes pas la seule opposition à avoir cette position, qui voudrait que nous n'actualisions jamais les tarifs des services publics municipaux métropolitains. C'est-à-dire que l'inflation fait que, eh bien, en quelques années, la valeur de l'euro n'est plus la même. Voilà, c'est la différence entre les euros courants et les euros constants. Et donc, la baguette à 1 euro, eh bien, quelques années plus tard, vaut plus cher et que même lorsqu'on fait à un moment à 1 euro le tarif de la cantine, on dit que c'est une tarification sociale, si on la maintient à ce montant pendant 5, 6 ou 7 ans, c'est à ce moment-là une cantine à 0,90 euros. En référence à l'année où ça a été institué. Donc c'est encore moins cher. Donc ça veut dire que c'était trop cher quand elle était 1 euro. Quoi, tout augmente. Vous n'avez pas remarqué, tout augmente les dépenses, mais aussi les recettes. Même les minima sociaux, j'allais dire, ne sont pas cristallisés comme l'ont été pendant longtemps les pensions des anciens combattants d'Afrique subsaharienne. Voilà. Donc, ces sommes ne sont pas cristallisées et donc les dépenses augmentent pour nous, les revenus augmentent et il faudrait que seule notre tarification n'augmente pas. Donc, ça veut dire ou que l'on dégrade le service public ou que l'on augmente les impôts. Et vous n'étiez pas au Conseil, mais vos amis ont voté contre toute augmentation d'impôts, même strictement imposée par des circonstances extérieures et non pas par des dépenses nouvelles. Voilà, donc votre position n'est pas cohérente. Donc bien sûr, l'inflation se joue partout pour les revenus, même de nos concitoyens, y compris, je le redis, sur les minima sociaux. Donc il est normal que nous répercutions l'inflation chaque année. Il ne s'agit pas d'une augmentation, il s'agit simplement d'une actualisation des tarifs pour faire que ça coûte la même chose par rapport aux revenus de nos concitoyens et dans un domaine où nous pratiquons déjà une tarification sociale importante, y compris sur le conservatoire. J'ai demandé d'ailleurs depuis quelques années que l'on informe tous les usagers du coût réel des services et de la participation qu'on demande. Que ce soit la cantine, que ce soit la piscine, que ce soit le conservatoire, que ce soit les titres de transport, que nos concitoyens aient conscience qu'ils ne payent souvent qu'une infime partie du coût réel et que le reste, c'est le contribuable qui le paye. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, Madame Leduc. Madame Comte, je comprends tout à fait ce que vous dites et parler en regardant mon collègue maire de Voipy. Quand je suis arrivé à la mairie de Voipy en 2001, après 24 ans de gestion d'union de la gauche, comme vous aimez dire, eh bien, il n'y avait à l'école municipale, l'école de musique, qui était sous statut associatif, mais à l'école de musique, il n'y avait pas un seul inscrit sur 200 élèves à peu près à l'Union de Voipy, il n'en avait pas un seul, vous entendez, pas un seul de l'autre côté de l'avenue de Thionville, des quartiers de Saint-Éloi et Boileau-Prégénie. Pas un seul. Voilà. Et avant, on lançait une action avec l'orchestre à l'école, parfaitement, qui continue à se développer aujourd'hui, à Voipy, et qui a permis aux enfants, c'est-à-dire de ces quartiers, et de milieu, et ce n'est pas simplement qu'un problème d'argent, c'était parfois même la distance culturelle. Quoi, ça ne leur venait même pas à l'idée. Donc on a pu lever à la fois tous les obstacles culturels, les obstacles financiers pour rapprocher l'enseignement de la musique des publics de Saint-Éloi et de Boileau-Prégénie. À Metz, quelques années plus tard, il y a eu des MOS qui prospèrent aussi sur la ville de Metz et même sur le département de la Moselle dans différents sites, mais nous n'en faisons jamais suffisamment. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le conservatoire qui est forcément outil dédié. Je rappelle que l'éducation musicale reste une compétence municipale et que nous avons, il y a de nombreuses autres écoles de musique de très grande qualité sur Metz et sur la périphérie, mais que nous pourrions avoir. Nous avons cet outil qui, lui, a été métropolisé comme grande institution culturelle, le Conservatoire Rayonnement Régional, et que nous pourrions engager une réflexion tout de même à l'échelle de la métropole sur l'éducation musicale. Voilà, et sur l'accès de tous les publics à l'éducation musicale. Pas forcément la gratuité totale, c'est parfois même un accompagnement du CCS. Il y a des pratiques artistiques ou des pratiques sportives qui peuvent être aujourd'hui hors d'accès pour des questions de revenus, et ça, il ne le faut pas. Mais par contre, il faut que nous aidions avec énormément de discernement, de bonne volonté, des gens qui effectivement n'ont pas des revenus suffisants. Ce sont les CCS des communes qui peuvent le contrôler. Mais je pense que nous avons effectivement une réflexion à mener, certainement après des actions à coordonner, éventuellement des actions métropolitaines à monter, on verra, pour renforcer effectivement l'accès des publics les plus éloignés à la pratique musicale et artistique, comme d'ailleurs aux pratiques sportives. Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose.
Évidemment, je souscris à tout ce qui a été dit. Vous avez fait un plaidoyer sur la culture, auquel je peux souscrire aussi. Ça me fait penser à une phrase de, je crois que c'est Victor Hugo qui disait « La musique, c'est du bruit qui pense ». Et accorder les tarifs sur le prix de l'inflation, c'est aussi finalement un prix qui pense. Voilà. Et si on veut pas que tout ça finisse en fausse note, on veut garder une sorte d'harmonie financière, hein, je file un peu la métaphore, eh bien il faut pouvoir évidemment rester sur cette indexation. Et puis si on prenait une autre métaphore, qui je pense parlera à tout le monde aujourd'hui, puisque je crois que c'est la journée la plus chaude au mois de mai en France, si on suivait pas l'inflation, c'est comme si on gardait finalement le même manteau pendant que le froid, lui, il augmente. Donc à la fin, c'est pas le tarif qui est raisonnable, et c'est celui qui le porte qui grelotte. Voilà. Et
sur ce, qui vote contre ? Bon, donc le groupe GE, c'est ça. Voilà. Donc vous me direz pour le groupe PS comment vous appelez, si vous voulez rassembler en acronyme aussi. Que je n'ai pas cité tous les partis qui ont composé. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 9, la modification du règlement de la redevance spéciale. Et je donne la parole à M. Laurent Bovy.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la redevance spéciale a été instituée sur le territoire de l'Eurométropole de Metz par délibération du 13 avril 2015. Il s'applique dès lors que le service public assure la gestion des déchets des non-ménages, entreprises, administrations, associations, commerces. Le règlement établit selon une grille tarifaire liée au type des déchets, au volume et à la fréquence de collecte, a été actualisé en 2025 et 2026 pour l'adapter aux pratiques de gestion, améliorer sa lisibilité et assurer sa conformité réglementaire. Afin de garantir un montant de redevance conforme au volume de déchets pris en charge et de simplifier la gestion administrative du dispositif, il est proposé d'abroger la disposition page 8 du règlement accordant une franchise forfaitaire de 50 litres d'ordures ménagères par semaine et par résident pour les structures médico-sociales et scolaires de type EHPAD, foyer, internat. La motion est en conséquence. Merci.
Merci. Demande d'intervention. Oui, alors, Monsieur Anstedt est... Oui, d'accord. Monsieur Anstedt a dit.
Oui, bonsoir à tous. Je suis plutôt favorable à cette proposition, mais simplement j'aimerais alerter sur un possible effet boomerang, et je ne sais pas si cela a été pris en compte dans la rédaction donc de l'ordre du jour. En fait, quelle était la justification initiale sur la franchise ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un public assez particulier qui était admissible à cette franchise, donc les résidents des EHPAD, les jeunes en internat et les personnes hébergées en foyer, dont les déchets résidentiels relèvent moins en fait d'une activité économique que d'une nécessité résidentielle. Et donc les 500 à 600 000 euros qui reviendraient dans la poche de la métropole, ce serait donc en fait de proche en proche 500 à 600 000 euros qui pèseraient davantage sur les structures. Donc ma question, est-ce qu'on a mesuré les établissements qui seraient impactés et est-ce que ça met en cause en fait la viabilité de leur modèle économique? Et surtout la question, c'est il y a un risque d'effet boomerang parce que c'est un milieu qui est concurrentiel comme vous le savez. La métropole est un prestataire, donc c'est même pas, en fait, nos administrés, ce sont nos clients. Donc il y a un risque, si le coût augmente, qu'ils aillent vers le privé. Et donc, c'est-à-dire, il y a un risque, en fait, de baisse des recettes. Et j'ai peur que les baisses des recettes soient plus élevées que ce qu'on va gagner suite à la suppression de la franchise. Donc, savoir quel est l'état des lieux sur cette chose. Et est-ce que vous avez mesuré la possibilité de l'effet boomerang lié à la suppression de la franchise?
Alors, Monsieur Riffaut.
Monsieur le Président, chers collègues, je souhaite interroger notre Assemblée sur une décision qui, bien que techniquement justifiable, mérite d'être questionnée dans son opportunité et dans ses conséquences concrètes pour nos concitoyens les plus vulnérables. Avant tout, sur l'opportunité financière. Le budget annexe des déchetteries affiche aujourd'hui un excédent de fonctionnement d'environ 2 millions d'euros. Nous l'avons vu dans la présentation du CFU, des investissements sont réalisés pour l'implantation d'épaves et du matériel roulant. Mais dans ce contexte, la décision d'étendre la redevance spéciale aux internats et aux EHPAD pour une captation estimée à 500 000 euros soulève une question simple. Est-ce nécessaire et est-ce vraiment le bon moment? On ne peut pas d'un côté constater un excédent confortable qui ne représente qu'une quote-part sur le volume d'investissement, et de l'autre, aller chercher des recettes supplémentaires via des établissements qui accueillent nos lycéens, nos étudiants et nos personnes âgées dépendantes. Ce n'est pas une question de légalité, c'est une question, à mon sens, de priorité politique. Les tarifs 2024 de la redevance spéciale sont clairs. Un établissement EHPAD d'une centaine de résidents devra assumer une facture de redevance annuelle d'environ 20 000 euros. Notre territoire compte 30 EHPAD sur des communes de l'Eurométropole directement concernées par cette mesure. Or, ces structures sont financièrement contraintes et si elles ne le sont pas, c'est en grande partie aux frais des résidents. Je précise que le tarif moyen d'un EHPAD sur le territoire, c'est 2 376 euros par mois. Et je rappelle que le niveau de retraite en France est de 891 euros pour la moyenne et de 1 850 euros pour la médiane. Donc vous voyez bien que c'est inférieur au coût moyen d'hébergement en EHPAD. Ce surcoût s'ajoute simultanément à la hausse des coûts d'énergie et de la crise du recrutement. Leur imposer une charge nouvelle sans compensation ni transition, c'est prendre le risque d'une dégradation directe des conditions d'accueil ou d'une hausse du reste à charge pour les familles. Et ce n'est pas acceptable. Nous souhaiterions savoir si une étude d'impact tarifaire pour les résidents a été réalisée. Notre territoire compte également une dizaine de lycées disposant d'un internat. Ces internats accueillent majoritairement des élèves venant de familles modestes ou du territoire ruraux. C'est précisément leur vocation républicaine et sociale. Quel volume et quel fléchage de déchets sont associés à un internat? Cela nous interroge sur la répercussion de la redevance spéciale sur les droits d'internat qui pourrait représenter plusieurs dizaines d'euros supplémentaires par trimestre. Ces établissements sous compétence régionale vont devoir absorber cette charge. Qui supportera ces coûts? Si c'est l'établissement, ce sont les familles qui subiront les conséquences. Si c'est la région, c'est un transfert de charges vers d'autres collectivités, sans concertation préalable à notre connaissance. Dans un contexte où l'internat est un levier d'égalité des chances, ce signal est particulièrement malvenu. Notre demande, face à ces éléments, nous demandons à l'Assemblée le report de cette mesure dans l'attente d'une étude d'impact, établissement par établissement, sur les conséquences financières pour les EHPAD et les familles des élèves internes. Le fléchage des 2 millions d'euros d'excédents de fonctionnement, une concertation avec les directions d'EHPAD, les établissements scolaires, la région et les familles avant toute mise en œuvre effective. Il ne s'agit pas de refuser toute évolution des règles de la redevance. Nous comprenons la logique de progression du dispositif depuis 2015, mais il s'agit de ne pas faire peser sur nos familles et nos aînés une décision qui ne peut pas être absorbée autrement au moment même où nos propres comptes affichent un excédent significatif. Je vous remercie.
Bien.
Il ne vous a pas échappé dans un précédent conseil métropolitain, lors de la présentation limpide du DOB par Thierry Horry, que nous subissions encore une nouvelle fois une baisse importante des dotations de l'État. Je ne pense pas que les instances parisiennes nous ont sollicités en s'inquiétant de l'impact de ce désengagement sur nos différentes missions, qu'elles soient sociales, environnementales, économiques. J'entends bien vos remarques, mais vous voyez bien que l'État ne s'embarrasse pas dans la méthode pour nous pénaliser financièrement. Là, ce que nous faisons est tout simplement rétablir une équité totale et une conformité juridique en supprimant la franchise par résident. Équité entre les acteurs. La pratique crée une distorsion de traitement injustifiée entre tous les producteurs non ménagers, entre le secteur médico-social et d'autres secteurs d'activité similaires, hôtellerie par exemple. Il n'existe aucun fondement légal permettant de traiter différemment de producteurs de déchets non ménagers au seul motif de leur mission sociale dès lors qu'ils utilisent le service public de collecte. Pour information, il y a 66 établissements, dont principalement 26 EHPAD et 12 scolaires, qui sont concernés. Merci.
Bien. Je voudrais vous dire que aujourd'hui, l'État a unilatéralement réduit très fortement nos recettes et qu'il réduit aussi celles d'autres collectivités, notamment du département et de la région, et amène d'ailleurs ces collectivités. Je siège dans l'une, j'ai des amis qui siègent dans l'autre, à réduire également leur cofinancement aux collectivités du bloc communal, à chercher à réduire même des participations statutaires à des grandes institutions culturelles, par exemple, et je dirais pas avec le même unilatéralisme que l'État, mais tout de même avec un certain unilatéralisme. En tout cas, ils y sont contraints, et nous serions, nous, les seuls à dire, non mais, non seulement vous pouvez réduire nos recettes, nos dotations, mais nous allons continuer à prendre en charge des dépenses qui relèvent de votre compétence. Je rappelle que les EHPAD relèvent strictement de la compétence de l'État et du département, pas du tout de l'intercommunalité ou de la commune. Et que ce que l'EHPAD ne paye pas, eh bien, c'est le contribuable de la commune ou là, de l'EPCI qui le paye, ou c'est des services en moins. Et donc, particulièrement d'ailleurs l'État, j'ai fait en expliquant que chacun doit se recentrer sur sa compétence, même si l'État passe son temps à nous demander d'autres choses que de gérer nos propres compétences, le discours est très, très ambivalent, nous n'avons aucune raison, nous, de supporter des charges qui incombent aux collectivités qui ont cette compétence. Et en prenant la compétence, elles prennent l'ensemble des coûts de fonctionnement. Pas de raison qu'une partie des coûts de fonctionnement soit prise en charge par la métropole. Alors même que ce sont des coûts de fonctionnement qui correspondent à des prestations réelles, hein. C'est pas des missions comme ça, quoi. C'est effectivement tout producteur de déchets. On aura aussi le sujet qu'on pourra avoir sur les exonérations du versement mobilité. Les entreprises payent, les administrations publiques payent le versement mobilité. Et puis, il y a un certain nombre d'institutions qu'on a au fil des ans exonérées du versement mobilité, alors qu'ils ont aussi des salariés qui se transportent. Voilà. Donc, quand c'est même des. On fait parfois le choix d'ailleurs, quand ce sont des associations, des acteurs qui rentrent dans notre champ de compétences, de dire non, on vous fait payer le vrai prix, même si on doit vous subventionner par ailleurs, mais au moins les comptes sont clairs. Voilà, il n'y a pas des coûts en fait qui sont masqués et qui sont payés ou par la commune ou par la métropole, qui apparaissent d'ailleurs un droit comme si ce n'était pas un acte politique de la collectivité en le donnant. Et je préfère encore qu'on paye ce qu'on doit, et même si derrière on redonne ce qu'il faut pour le payer, au moins on sait que c'est nous qui le donnons et que ce n'est pas un droit. On crée des formes de droits qui n'en sont pas. En exonérant un nombre de personnes de charges qui, du coup, sont prises en charge par les autres. Voilà. Moi, je propose tout de même, et nous sommes amenés à poser le problème comme ça. Quand on va voir dans quelle seringue budgétaire on est, et éventuellement, ça ne passe plus budgétairement, qui aura peut-être augmenté la fiscalité, ce sont les mêmes qui veulent qu'on continue à dépenser ou ne pas encaisser des recettes qui diront qu'il ne faut pas non plus d'impôts supplémentaires. Je vous mets au pari que ça va être les mêmes. Voilà. Sauf qu'à un moment, les collectivités d'une métropole, comme celle d'une commune, d'un département, d'une région, contrairement au compte de l'État, doivent être équilibrées. Voilà. Et donc, nous sommes dans cette situation. Nous sommes obligés de revoir, c'est-à-dire des cadeaux que nous faisions dans des champs de compétences qui ne sont pas les nôtres. Quant à l'étude d'impact, qui est quasiment impossible aujourd'hui, on n'a pas les données. On verra très bien, à partir du moment où on le met en œuvre, les conséquences qui en sont, ce qui est facturé. Nous n'avons pas, nous, le montant de l'assiette. Donc, à partir de quoi nous ferions cette étude d'impact et on remettra chaque année, s'il le faut, cela en débat. Je discuterai avec les financeurs. Mais je crois qu'à un moment, on ne peut pas être les seuls à continuer à faire des cadeaux à tout le monde, à prendre en charge des dépenses qui incombent à d'autres, tout en voyant nos recettes réduites de façon drastique comme aujourd'hui. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui vote contre ? Donc, les deux groupes de gauche. Qui s'abstient ? D'autres pour, je vous remercie. Alors, point numéro 10, l'avenant numéro 1 à la concession de services publics pour exploitation du réseau de transport public et de voyageurs de l'Eurométropole de Metz. La parole est à Monsieur Philippe Manzano et sortent de la salle les élus qui siègent à la CEMOPTEM, donc Béatrice Agamemnon, Chantillou, Abdelhadjid Maouch, Tanguy Servet, Thierry Horry, Ferit Buran, Pascal Hubert, Marilyn Weber, et Charlotte Leduc et Mamar Mehalil. Monsieur Manzano, c'est à vous.
Président, chers collègues, le Conseil métropolitain a approuvé lors de la séance du 6 octobre 2025 le nouveau contrat de concession du réseau de transport de voyageurs de l'Eurométropole, entré en vigueur le 1er janvier 2026 avec la Société d'économie mixte d'opération unique, la CEMOP, des transports de l'Eurométropole de Metz, les TEM. Dans l'intérêt du service délégué et pour permettre la bonne exécution du contrat, il est proposé d'approuver l'avenant numéro 1 qui a pour objet de prendre en compte les ordres de service numéro 2 et 3 intervenus depuis la signature du contrat, de substituer l'index 1.24 démarche qualité ainsi que les tableaux de bord de suivi associés, de préciser la rédaction de l'article 13.4.2 sur les mesures à prendre lors du déclenchement du seuil d'alerte en cas d'épisode de pollution atmosphérique, et ajouter une indemnité de réemploi au profit de l'Eurométropole dans le cas où le délégataire effectuerait des prestations pour tiers.
Y a-t-il demande la parole ? Personne ? Oui, monsieur Anstett.
Oui, je vais refaire une intervention un peu technique, parce que justement, on n'a pas eu de commission de ressources, en fait, et ça, je le déplore. J'aurais bien aimé avoir une commission ressources, au moins pour qu'on puisse discuter des chiffres, les mettre en débat et avoir davantage de détails. Donc, cet avenant, en fait, apporte plusieurs choses. Il y a notamment l'attribution du LOT 6, qui a été un échec. Donc, est-ce qu'il est possible de savoir pourquoi ça a été un échec ? Est-ce que des offres ont été faites ? Et également, il y a une forte dérive budgétaire sur l'adaptation du dépôt Joba pour accueillir les bus hydrogène électrique. Donc c'est tout à fait relié au choix, je pense, de l'hydrogène avec un coût objectif qui a une trajectoire haussière assez importante. Donc on était à 3,5 millions suivant l'ordre du jour qui a été transmis au conseiller. Le PPI initial prévoyait 2,4 millions, donc c'est une augmentation de 35%. Simplement pour une adaptation de dépôt Joba, donc c'est vraiment extrêmement important. Donc savoir s'il est possible d'avoir davantage d'éléments. Je suis désolé de faire une question technique comme ça, mais on n'a pas eu de commission de ressources malheureusement.
Bien, Monsieur Manzano.
Donc vous parlez, je suppose, de l'OS numéro 3. En fait, ça concerne donc le centre d'exploitation de Joba. C'est des travaux concernant donc les transports donc électriques et sur l'hydrogène. Principalement donc la création de bornes électriques pour tous les véhicules sauf les futurs gros qui seront sur les métis A et B lors de leur remplacement, et aussi donc d'adapter le dépôt et le centre de maintenance aux nouvelles normes, donc incendie et normes électriques,
Voilà, donc au marché, on était à 3,3 millions d'euros. On est sur l'OS à 4,2 millions d'euros. Mais à première vue, les atterrissages sont entre les deux, entre ces deux chiffres.
À l'ouverture des plis. On a toujours, effectivement, aujourd'hui, à chaque ouverture des plis, de plus mauvaises surprises. On l'a sur bien d'autres sujets, y compris les sujets les moins les plus classiques, bâtimentaires. Là, on est pris par, voire même de voirie, on est surpris par l'inflation, là, qui est bien au-delà de l'inflation qu'on répercute sur le conservatoire. Voilà.
Je peux donner aussi quelques précisions concernant l'OS numéro 2. Hein, il concerne principalement l'arbitration des métisses existants hein, au niveau des châssis pour qu'ils puissent durer jusqu'à leur remplacement. Pour une somme de 1,3
million. Bien. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, les deux groupes de gauche, oui, et le groupe RN. Voilà. Bien. Eh bien, je vous remercie. Maintenant, nous passons au point numéro 11, l'avis sur le projet de schéma départemental et d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2025-2030, tu vois, dans la métropole de Metz. Et la parole est à Monsieur Dominique Strebi.
Merci, Président. Chers collègues, la loi Besson de 2000 impose au département un schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. En Moselle, le schéma 2017-2023 a fait l'objet d'une consultation en 2025 où l'Eurométropole avait émis un avis défavorable, contestant notamment des modalités d'accueil l'aire de Grand Passage, refusant l'implantation de terrains familiaux et locatifs. Elle a aussi demandé une redistribution des missions d'accueil entre les territoires voisins. Après un ajustement, une version finale du schéma départemental nous a été transmise le 21 mars 2026. Les modifications étant désormais satisfaisantes, il nous est proposé de donner un avis favorable au projet de schéma départemental des gens du voyage pour 2026-2031. Voilà, Président.
Merci, Monsieur Strebli. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Alors, Monsieur Rock, puis Monsieur Anstett. Alors, et Monsieur Grégoire. D'accord. Alors, Monsieur Rock.
Monsieur le Président, chers collègues, je suis désolé, je serai un peu long sur ce sujet. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous prononcer sur le projet du schéma départemental. Et l'avis que nous prononçons relève d'une hypocrisie institutionnelle que nous ne pouvons pas ignorer. Celle d'une métropole qui, d'un côté, critique l'État pour son manque d'engagement et qui, de l'autre, adopte des règles locales qui fragilisent l'accès aux droits pour les mêmes populations. Le territoire de l'Eurométropole de Metz est aujourd'hui présenté comme conforme à ses obligations en matière d'accueil. Cette locture de conformité ne doit toutefois pas masquer l'existence d'un besoin social et territorial persistant. Le diagnostic du schéma indique qu'environ 40 foyers sont durablement implantés autour de Metz. Ces familles ne quittent que rarement le territoire métropolitain et se déplacent le plus souvent de site en site au gré des expulsions. Le schéma indique également que ces familles n'ont pas, à ce stade, souhaité se rendre sur l'aire nouvelle de Metz-Solot. Il faudrait peut-être se poser des questions. Les données de stationnement illicite confirment cette pression. En 2023, l'arrondissement de Metz concentre environ la moitié des stationnements illicites du département. Metz Métropole représente à elle seule 54 stationnements illicites, soit 51% du total de l'arrondissement. Et l'offre ne semble pas correspondre aux besoins des familles qui fréquentent des aires de passage sur d'autres territoires, mais qui ne les fréquentent pas dans notre métropole. Il s'agit donc aussi d'améliorer qualitativement l'offre d'air pour avoir moins de stationnements illicites. Mais la prescription principale du schéma porte désormais sur l'accompagnement des familles qui le souhaitent vers le logement social. Car la politique métropolitaine ne peut être appréciée uniquement au regard des équipements, elle doit aussi être mise en cohérence avec les autres politiques publiques, en particulier le Fonds de solidarité pour le logement. Le nouveau règlement intérieur du FSL de la métropole de Metz, adopté par délibération du 26 janvier 2026, prévoit pour les ménages en résidence mobile des conditions spécifiques d'accès. Le document impose notamment une domiciliation en Moselle, ainsi qu'un stationnement d'une durée d'un mois sur l'une des aires permanentes d'accueil de Metz Métropole ou sur des terrains locatifs familiaux. Ces critères soulèvent deux difficultés juridiques principales. La première tient au principe de domiciliation légale. Les articles L264-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles organisent le droit à la domiciliation des personnes sans domicile stable. L'article L264-3 il précise que l'absence d'adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit. L'accès à une prestation sociale ou à un service essentiel dès lors qu'elle dispose d'une attestation de domiciliation en cours de validité. Je vous rappelle aussi, mais vous n'êtes pas sans le savoir, que la métropole remet en cause fréquemment la domiciliation légale qui est assurée en particulier par l'association Amitié de Cigane. La seconde difficulté légale tient à la loi Besson du 31 mai 1990. Son article 6-1 prévoit que les conditions d'octroi des aides du FSL ne peuvent reposer que et uniquement sur le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et sur l'importance et la nature des difficultés rencontrées. Il précise également que les aides accordées par le FSL ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. Aucune. Or, l'exigence d'un mois de stationnement sur une aire métropolitaine peut s'analyser comme une condition de présence préalable sur le département. L'articulation entre le schéma départemental et le Fonds de solidarité logement de notre métropole est donc très problématique. D'un côté, le schéma reconnaît l'existence d'un public durablement ancré autour de Metz, confronté à des difficultés de stationnement d'habitat, de santé, de scolarisation et d'accès aux droits. De l'autre, le règlement FSL métropolitain introduit des conditions particulièrement susceptibles de restreindre l'accès aux aides pour ces mêmes ménages. La métropole se trouve ainsi dans une position paradoxale. Elle accepte d'accompagner les familles vers le logement social dans le cadre du schéma, mais elle encadre l'accès au FSL par des critères qui peuvent limiter, voire supprimer, l'effectivité de cet accompagnement. Monsieur le Président, chers collègues, la réponse publique doit être ferme sur les occupations illicites, mais irréprochable sur l'accès aux droits. Les stationnements non autorisés peuvent générer des tensions, des difficultés d'usage de l'espace public, des coûts de remise en état et un sentiment d'impuissance. La presse locale relaye régulièrement les situations conflictuelles pouvant exister. Mais je le rappelle, la réponse publique doit être ferme sur les occupations illicites, mais irréprochable sur l'accès aux droits. La réponse à ces tensions ne peut pas reposer sur une stigmatisation globale. Les gens du voyage constituent une population qui subit déjà des représentations négatives fortes, des discriminations récurrentes et des difficultés d'accès aux droits. Le défenseur des droits souligne l'ampleur des discriminations et atteintes aux droits subis par les gens du voyage, notamment dans l'accès au logement, la scolarisation, la domiciliation et aux services publics. Nous refusons donc ce soir de faire un faux choix entre tranquillité publique et humanisme. Il est possible de traiter les occupations illicites, de protéger les riverains, d'assurer la remise en état des sites et de demander à l'État d'agir lorsque les obligations sont remplies. Mais cela doit s'accompagner d'une politique d'accès aux droits, d'habitat adapté, de médiation et d'accompagnement social que notre métropole refuse de faire. Sous ce dernier angle, en effet, les choix métropolitains, et je crois l'avoir démontré, sont largement discutables. Car au regard des principes de notre République, il n'y a qu'une question qu'il faut se poser. La collectivité garantit-elle pour les personnes vivant en résidence mobile le même accès aux droits que pour les autres ménages en difficulté? La réponse est aujourd'hui non, sans appel. Nous ne répondons pas à l'idéal républicain d'égalité.
Après M. Roch, M. Anstett.
M. Roch, j'ai voté contre le schéma. Oui, bien sûr, oui. Oui, je pense qu'on vient d'avoir l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire, une vision absolument technocratique. Mais j'ai vu un petit peu le sujet du côté État, donc je comprends en fait la complexité qu'il peut avoir. Donc notre groupe votera ce schéma avec simplement deux petites remarques. La première, c'est sur ce que vous voulez en fait ajouter et surtout modifier en fait dans le schéma. Sur la mention de localisation géographique de l'aire Blida, j'avoue ne pas comprendre en fait l'utilité d'une telle précision dans un document de planification de cette nature. La localisation de cette aire, elle est connue de tous, donc je ne pense pas que simplement modifier et supprimer la mention dans le schéma, ça va changer grand-chose. Je trouve ça un poil ridicule, très honnêtement. Et sur le deuxième point, je crois que c'est très très important, c'est même plus substantiel, c'est de garder constamment, et je sais que ce n'a pas toujours été le cas lors des dernières années, un lien avec l'interlocuteur qui est l'État. Et c'est-à-dire de garder constamment un lien avec le médiateur des gens du voyage, qui fait un travail qui est très compliqué, celui d'être le tampon entre les habitants, entre les élus, entre la métropole, entre les différentes métropoles et entre les représentants des gens du voyage. Et donc, M. Roch, vous pouvez multiplier les airs dans tous les sens, ça ne changera rien. Le problème n'est pas là. Donc, c'est-à-dire que vous ignorez même les demandes des gens du voyage, et je pense que vous ne ferez pas beaucoup d'amis au sein des maires dans cette assemblée. Donc, vraiment, ma recommandation, c'est de garder un dialogue constant avec Monsieur Laplace, avec le médiateur du gens du voyage, parce que c'est très important d'avoir de notre côté l'État, parce que c'est lui qui va intervenir dans une demande d'unité de force mobile pour expulser, et donc il est très important d'être en bon terme avec les représentants de l'État sur le sujet.
Merci, Monsieur Anstett. Monsieur Grégoire.
Monsieur le Président, chers collègues, on va passer aux travaux pratiques. Je ne reviendrai pas sur les revendications de l'Eurométropole de Metz dans le cadre de l'approbation du nouveau schéma départemental. En effet, ces revendications sont légitimes tant dans la lettre que dans l'esprit. Dans la lettre, elles confirment une demande de fermeté à l'égard des occupations illégales. Dans l'esprit, elles mettent en avant non seulement les réalisations accomplies, mais également la prise en compte de perspectives de sédentarisation raisonnée. Toutefois, je souhaite attirer l'attention de l'Assemblée sur une situation inacceptable et récurrente qui touche la commune de Saint-Julien-les-Metz depuis plusieurs années. Régulièrement, le parking de la zone de loisirs, situé à proximité immédiate d'une école, quand ce n'est pas la zone de loisirs elle-même qui est squattée, fait l'objet d'occupations illégales de la part de groupes de gens du voyage. L'année passée, nous avons connu plus de 25 semaines d'occupations cumulées, soit une moyenne annuelle de près d'une semaine sur deux. Et cela en dépit de deux arrêtés, l'un métropolitain et l'autre communal, interdisant ce type de stationnement. Actuellement, des gens du voyage occupent ce parking depuis le 21 mars, soit 66 jours consécutifs. Les mises en demeure régulièrement adressées par la commune et les représentants de la zone de loisirs ne sont jamais suivies d'effet et restent lettre morte. L'État n'intervient pas et les arrêtés ne sont pas appliqués, alors même que l'Eurométropole s'est conformé en tout point aux obligations mises à sa charge par le schéma départemental actuellement en vigueur. Le schéma lui-même reconnaît en substance que les créations d'aires ne suppriment pas les stationnements illicites de familles qui refusent de s'y rendre. La réponse ne peut donc être qu'une application ferme et régulière des procédures d'expulsion. Cela suffit. Les habitants sont, à juste titre, excédé par cette situation. La commune de Saint-Julien-les-Metz demande donc, outre la solidarité métropolitaine lors des installations sauvages, notamment au soutien du concours de la police municipale intercommunale, que soit mise en œuvre d'une part le plan d'aménagement des lieux en cause concerté en 2025 entre la métropole, la commune et les représentants de la zone de loisirs, pour interdire l'accès sauvage aux différents réseaux in situ, entre autres l'eau et l'électricité, afin peut-être d'endiguer le flux de ces installations illégales. D'autre part, dans l'attente de ces aménagements, la commune, soutenue par la métropole, demande que l'État procède enfin, lorsqu'il est régulièrement requis, aux expulsions, seules de nature à mettre un terme à ces occupations illégales. En conséquence, la commune de Saint-Julien-les-Metz s'abstiendra lors du vote relatif au schéma départemental, car les habitants attendent désormais moins des intentions que des résultats. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Grégoire. Madame Burgi.
Monsieur le maire, chers collègues, je viens justement après l'intervention de Monsieur Grégoire saluer le courage de la métropole, car si elle représente effectivement 50% des installations illicites, nous avons pourtant fait le travail. Beaucoup de millions d'euros ont été investis et nous avons maintenant une aire de grand passage et le rapport qui est présenté signale effectivement qu'il n'y a pas besoin de plus d'installations permanentes. Les communautés environnantes vont faire le travail, que ce soit la CPPOM ou Vive Rive de Moselle. Nous avons donc investi et finalement le choix de différents modes de vie, je remarque que l'Union de la gauche, depuis qu'elle s'appelle comme ça, a changé son braquet concernant la considération de liberté de choix de mode de vie, puisque c'est ce que nous entendions au conseil municipal notamment et au conseil métropolitain, c'est qu'il fallait respecter la différence de choix de mode de vie. Sans citer les installations illicites, je remarque le changement de discours que je salue, de dire qu'il faut être très ferme sur les installations illicites. En effet, ce pacte social que nous passons avec cette communauté qui décide de vivre différemment, c'est le respect de la propriété, le respect du mode de vie des uns et des autres, mais la liberté des uns s'arrêtant là où commence celle des autres. Lorsque c'est des installations illicites, cela devient compliqué. Et également dire que pour tous et toutes, l'accès à l'eau et à l'énergie doit être tarifé. Nous ne pouvons pas décider de prendre l'eau et l'énergie de manière gratuite quand les concitoyens autour payent des taxes pour ça. À ce titre, je souhaite vous partager des anecdotes de riveraines de Grigy qui avaient peur pour leur sécurité, qui voyaient des espaces naturels souillés, des riverains de Voipy également qui avaient très peur d'entrer ou de promener leurs chiens ou d'aller avec leurs enfants près des camps. Et effectivement, les dangers que peuvent provoquer des branchements sauvages à l'eau et à l'électricité. Et aussi l'impuissance, Monsieur Grégoire, parfois, des entreprises à aller agir, puisqu'elles n'en ont parfois pas la possibilité. Je pense à des coupures d'électricité ou des coupures d'eau où nous avons eu le plus grand mal à organiser ces coupures-là. Aussi vous dire qu'il y a le régime de la terreur qui est imposé par ces communautés. Je salue le courage de l'Eurométropole, de son président, de sa police municipale intercommunale, qui n'ont jamais reculer devant une intervention sur un camp, ce qui n'a pas toujours été le cas, parfois de la gendarmerie dans des milieux ruraux, où on m'a clairement fait comprendre que c'était un peu le dernier recours qu'il voulait employer. Également, vous parlez du danger qu'a été une connexion à l'eau où avait été fermée une vanne qui alimentait une section de l'hôpital de Mercy de dialyse et qui a failli créer clairement un drame. Et heureusement, les équipes d'intervention de la Moselle des Eaux ont trouvé très vite d'où cela venait. Et concernant le bien-être animal, je finirai là-dessus. Il y a souvent des chiens attachés de manière très courte qui sont affamés pour des raisons que je tairai et où, effectivement, les forces de police et de police municipale osent aller. Et parfois, malheureusement, d'autres escadrons décident de ne pas aller. Et je les comprends parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Donc jamais on ne tolérera le régime de la terreur. Encore hier, une agression à Sainte-Marie-aux-Chênes sur des passants qui étaient stationnés sur un parking. Et je salue donc Célia qui s'est fait clairement, je ne dirais pas autrement, casser la gueule pour aucune raison. Et on ne sait qu'il ne va rien se passer parce qu'il y a vraiment ce sentiment d'impuissance. Donc je ne dirais pas qu'il s'agit ici finalement de manque de courage ou de volonté. Et je pense vraiment que ce cas de Saint-Julien est un cas un peu isolé, puisque je pense que nous avons démantelé quand même un nombre d'installations illicites. Et je soutiens totalement la métropole sur sa capacité à intervenir sur les branchements et les installations sauvages. Merci.
Merci, Madame Burgi. Monsieur Strebli.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais apporter quelques commentaires, notamment à l'intervention de Monsieur Roch. Là, on parle de schéma départemental de l'air du voyage, de schéma départemental d'accueil des gens du voyage. On parle que de ça. Donc, on parle de l'aire de grand passage et de trois aires d'accueil. On ne parle rien d'autre. Le schéma ne concerne rien d'autre. Donc, les éléments, ben non, on ne tombera jamais d'accord. De toute façon, ce n'est pas la peine. Donc, le schéma.
Seul monsieur Strebli a la parole. Monsieur Roch, vous taisez. Vous n'avez pas la parole.
La délibération qu'on doit prendre ce soir porte sur le schéma départemental, les occupations et les aires d'accueil. Ça se limite à ça. On a choisi à la métropole, plutôt que de faire des zones de non-cas d'accueil, d'endroits où des bidonvilles, comme je vous invite à aller au Brouhr, près de Forbach, vous verrez de quoi je parle, on a préféré ouvrir les logements sociaux aux gens du voyage. Donc on est dans cette démarche, l'État l'a accepté, donc on suit cette démarche et cette volonté. Maintenant, concernant... Et puis, de toute façon, alors, on parle de l'évacuation des je prends brûle pour point comme ça se présente, on parle de l'évacuation des gens du voyage. L'État ne peut pas les envoyer vers Elle peut les interdire d'être là, mais ne peut pas les envoyer vers d'autres endroits. C'est le problème de la loi. Alors je vous invite, vous avez des gens parmi vous qui ont été députés, qui ont été côté législatif, de modifier la loi. Et ce qui nous permettra d'avoir de pouvoir faire les choses. Voilà, ça, c'est une chose. C'est là une dernière des choses. Maintenant, concernant Saint-Julien. Alors Saint-Julien, on va vous parler de la réunion à laquelle que j'ai personnellement menée. On a tenu, la métropole a tenu ses engagements. Malheureusement, c'est un terrain privé, vous le savez très bien comme moi. Les prestataires extérieurs n'ont pas tenu parole, n'ont pas fait. Et alors, effectivement, je vois passer les courriers que vous adressez à la préfecture. Et moi, j'ai pas la main pour leur dire de partir. Et encore une fois, je dis, le préfet peut les obliger à quitter un endroit, mais pas les obliger à aller vers un autre. De toute façon, les groupes dont on parle, c'est des groupes qui, malgré vous aurez beau faire autant d'air que vous voulez, ils n'iront jamais. Parce qu'ils ont pas, ils ne veulent pas payer. Voilà, c'est clair, net et précis. Et il n'y a pas de raison que ces gens-là ne payent pas, alors que ce soit les fluides et l'eau et tout ce qu'on leur met à disposition, alors que n'importe qui, ici dans cette salle, et même dans les endroits reculés en Moselle, paye pour pouvoir assumer leur train de vie. Voilà.
Merci, Monsieur Trébly. Je voudrais dire... attendez, c'est une intervention par point. Je suis désolé. C'est une intervention par point. On a un règlement. Monsieur Rock, j'accepte pas votre procès que vous nous faites, même si vous finissez par reconnaître qu'il faut peut-être ne pas accepter les occupations illégales, ce qui est un net progrès, comme le notait Rachel Burchi. Mais quand vous parlez d'hypocrisie institutionnelle, ou que vous dites que nous refusons l'accès aux droits des gens du voyage, c'est scandaleux, c'est mensonger, c'est inacceptable. Les gens du voyage n'ont pas le droit de s'installer où ils veulent, chez qui ils veulent, comme ils veulent. Aucune loi de la République ne les autorise. Simplement, il y a une pratique aujourd'hui administrative qui les laisse faire. Oui, comme l'a rappelé M. Strebly, le préfet ne peut pas imposer à des gens du voyage d'aller à tel endroit. La liberté d'aller et de venir est une liberté fondamentale. En revanche, personne n'a le droit de s'installer où il a envie en occupant un espace public et en le confisquant au détriment des usagers, encore moins de s'approprier une propriété privée et moins encore de multiplier les atteintes à l'environnement comme être à peu près systématiquement, et c'est pas des questions d'eau, c'est même des dépôts d'excréments humains en quantité partout où ils passent et que nous ramassons, pas plus qu'on a le droit de voler l'énergie. Or, c'est cela que nous retrouvons à chaque occupation illicite. Alors même si souvent la presse se jette un voile pudique là-dessus, si certaines forces politiques comme la vôtre placent toujours les gens du voyage dans la catégorie du prolétariat victime, etc., et les sédentaires dans la catégorie des bourgeois, des oppresseurs, et donc on a toujours le mauvais rôle. Nous essayons... simplement de faire accepter, de faire respecter le droit par tous, y compris par les gens du voyage, dont nous ne contestons pas la liberté fondamentale d'aller et de venir, et la liberté de choisir le mode de vie non sédentaire. Je respecte infiniment tous les modes de vie et toutes les cultures. J'ai géré la diversité culturelle toute ma vie, géré des dizaines de nationalités, pas des centaines, c'est aussi quelle peut être la richesse de la diversité d'altérité, viole systématiquement les droits d'autres groupes, il n'y a pas de vivre ensemble possible. Et on essaie simplement de ramener les gens du voyage au respect des lois et des règles les plus élémentaires, dont certaines d'ailleurs sont des simples règles d'hygiène publique. Nous avons investi 5 millions d'euros encore en début de mandat en 2020. Nous en avons rajouté un bon million pour sécuriser, pour compléter, etc. nous dépensons 640 000 euros par an en fonctionnement, en plus de cet investissement, auquel il faut rajouter plus de 300 000 tous les ans pour faire face aux dégâts des occupations illégales. Donc on est à 6 millions d'euros d'investissement et on est à 1 million d'euros en fonctionnement chaque année, au détriment d'autres politiques publiques. Nous sommes la seule intercommunalité de Moselle qui était soumise à des obligations au schéma départemental, certaines rurales n'en ont aucune, qui étaient en conformité avec le schéma départemental. La ville de Metz, et de ce fait la métropole, ne l'était pas avant 2020, je le rappelle. Et quand je dis la ville de Metz, c'est elle qui, au départ, avait l'obligation d'une deuxième aire d'accueil. Mon prédécesseur, la mairie de Metz, n'a jamais voulu le faire. Aujourd'hui, le Grand Nancy n'est pas en conformité. J'aime bien donner des leçons par la gauche. Mais ils ne sont pas en conformité. Nous, nous le sommes. Simplement, nous exigeons qu'à partir du moment où nous remplissons tous nos droits, eh bien, on veut qu'en face, les gens respectent leurs devoirs. Et c'est notre position. Et cette position, elle est juste. C'est pour ça que je ne peux pas accepter vos mots, consiste à dire que nous refusons les droits élémentaires des gens du voyage. Ensuite, on est dans la contradiction la plus totale. Vous nous dites, oui, mais les gens du voyage, ils sont de la métropole pour la plupart. Bon, d'abord, je rappelle que nous respectons strictement le droit au logement et au logement social quand les personnes sont en dessous du plafond de ressources. Mais que si certains sont dans la métropole, l'approche, on n'est plus gens du voyage si on est toujours dans le même EPCI. Au minimum, l'échelle départementale, c'est un minimum. Parce qu'on ne prend pas les gens du voyage qui ne bougent pas. Ensuite, on a affaire, quand vous dites conditions de patrimoine, on a des gens, j'en connais, j'avais même une controverse passée sur les réseaux sociaux avec une représentante des gens du voyage qui habite au chemin de la Moselle, qui a un logement social, qui a bien sûr l'APL, qui a tous les minima sociaux et qui peut rouler, d'ailleurs, là on ne tient pas compte des sites extérieurs de richesse, avec un attelage, un véhicule, et une caravane à plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, on ne se pose pas de questions. Bon, donc, et qui refuse délibérément, elle le dit même, de payer quand elle est en aire d'accueil, en disant que le tarif est excessif. Le tarif, c'est 5 euros par jour. Même si nos zones étaient occupées à 100%, ce serait loin de couvrir le coût de fonctionnement, et je ne parle même pas de l'amortissement de l'aire d'accueil. Alors que je suis désolé, les locataires de logements sociaux, même s'ils sont dans des logements aidés, contribuent par leur loyer très fortement au financement de leur propre logement. Ensuite, dans les logements sociaux, ils payent l'énergie. Voilà. Et quand dans un logement social, on ne paye pas l'UEM, on ne paye pas SME Veolia, eh bien, on vous coupe les flux. Les gens du voyage refusent délibérément de le faire, ils le disent. Et ceux qui les payent en appartement, lorsqu'ils se déplacent, les connaissent, discutent avec eux, n'y vont pas parce qu'ils ne veulent pas payer les fluides et nous faisons payer les fluides au prix réel. Voilà, donc vous êtes toujours de façon très binaire à nous présenter comme les méchants et présenter les autres comme les bons et les victimes, alors même qu'ils sont dans l'abus de droit en permanence, et ça c'est complètement sur le droit des autres. Et nous voulons simplement rétablir une situation de respect du droit. Alors, M. Anstead, vous dites, oui, mais vous n'aviez pas gardé le lien constant avec l'État. Toujours le lien constant avec l'État. Même quand je m'engueule avec un représentant de l'État, je garde le lien avec lui et on se parle tous les jours sur les différents sujets d'ordre public. Ce que je ne pouvais pas accepter, c'est un préfet qui assumait, même en Assemblée des maires, de considérer qu'une occupation illicite contre l'avis du propriétaire public ou privé n'était pas en soi constitutif, quoi, n'était pas suffisant pour justifier un arrêté administratif d'expulsion alors que la loi lui permet de le faire, au nom, c'est vrai, certaines jurisprudences du Conseil d'État, mais qui méritent à être interprétées et qui n'est pas du tout interprétée dans les autres départements, où dès lors que la collectivité est en conformité et que l'occupation est illégale et que le propriétaire ou l'utilisateur demande en plus l'expulsion, qu'on le fasse. Voilà. Et donc, quand on n'est pas avec le préfet, en démocratie, on a le droit de le dire. Et je suis heureux d'être très en phase avec le nouveau préfet qui a une vision beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus juste et qui, au pire, courra même le risque de réponse administrative plutôt que le risque de laisser une violation de droit au préjudice des habitants sur notre territoire. Que je ne vous dis pas tous les droits qui sont lésés. D'abord, tout ce qu'on paye chaque année, je veux dire, c'est au détriment de nos contribuables, mais quand vous avez des gens qui, à Grigy, vivent des semaines avec des personnes qui viennent déféquer sous leurs fenêtres de plein pied, et je veux multiplier, je veux dire, les exemples à Metz sur la métropole, on en a tous des exemples. Les zones estivales sont remplies de ça. Dominique Strebe, le premier, j'ai eu cette délégation avant lui, je sais ce que c'est, et être responsable des populations. Donc, notre position, c'est le respect du droit. Ensuite, il y a ce que nous refusons, c'est effectivement des éléments proposés dans tous les schémas départementaux, doctrine de certains, dans la technostructure de l'État, qui voudraient que nous fassions ce qu'on appelle des aires de sédentarisation. Alors, pour moi, la sédentarisation, elle existe dans des logements, et si les gens n'ont pas de revenus, c'est des logements sociaux, c'est comme les autres. Alors, une aire de sédentarisation, comme ça s'est fait ailleurs, c'est d'abord, c'est une forme de lotissement qu'on n'a plus le droit de faire. Je rappelle qu'avec Lausanne, le SCOT, le PLU, les règles qui s'imposent à nos PLU, c'est quasiment impossible de faire un lotissement avec une parcelle des maisons avec des parcelles de 4 arts, sauf qu'il faudrait qu'on en fasse juste pour les gens du voyage. Et pas pour construire une maison, mais pour construire un point d'eau, un point sanitaire, elle est de 20 mètres carrés, autour duquel on met la caravane. Et puis on rajoute des tentes, des excroissances en bois ou en tôle, et on construit un bidonville. Outre l'effet désastreux sur le plan d'urbanisme, donc M. Grégoire, je ne sais pas si vous nous demandiez de penser à une aire de sédentarisation ou pas, non, j'espère, parce qu'autrement vous la proposerez, mais aucun collègue n'en veut. Mais en plus, sur un plan de social, ça me semble épouvantable, parce que non seulement on crée un bidonville sur le plan d'urbanisme, mais on crée un ghetto sur le plan culturel et social. C'est tout le contraire de l'intégration et d'insertion sociale. C'est effectivement dans la mixité sociale qu'on peut réussir l'intégration et l'insertion. Donc c'est absolument contre-productif. C'est vraiment simplement, une fois de plus, là encore, accorder des droits à des catégories de personnes qu'on refuse aux autres. Et c'est là tous les débats qu'on peut avoir avec l'État. Donc, dans la raison principale, en fait, de cette redélibération, c'est que nous nous étions opposés dans le précédent mandat, un, à ce qu'on nous impose une aire de sédentarisation, et deux, à ce qu'il n'y ait, pour accueillir les grands groupes, seulement des aires de grand passage sur l'Eurométropole de Metz et sur Thionville. Il y avait une obligation dans le plan d'avant qui avait sauté pour les interco-intermédiaires, c'est-à-dire notamment Rive de Moselle et la CCPOM, qui connaissent des occupations très importantes. Et d'ailleurs, on avait mesuré très objectivement, en voyant les flux l'été, que notre aire plus celle de Thionville, constituée, ne suffirait pas. Et donc là, il est proposé de faire non pas une aire de grand passage, mais une aire de délestage, d'un règlement un peu plus souple, qui pourrait être utilisé, y compris pour des locaux, si j'ai bien compris, donc c'est moins restrictive sur la temporalité que l'aire de grand passage, et donc là, qui peuvent nous donner satisfaction. C'est pour ça qu'on propose d'émettre un avis favorable, là où, où nous avions émis un avis défavorable. Sur ce, je vous propose d'adopter cet avis. Explication de vote.
Nous voterons contre cet avis. La teneur des débats nous prouve que nous avons raison de voter contre cet avis. Monsieur le Président, chers collègues, je vous rappelle que non seulement nous vous reprochions dans mon intervention de ne pas mettre en place d'aires de sédentarisation, mais surtout nous vous reprochions de ne pas mettre en place les dispositifs auprès du FSL et du règlement du FSL, de tout faire pour ne pas permettre aux gens du voyage de se sédentariser dans des logements sociaux existants, et comme vous le proposiez il y a 3 minutes. Donc oui, je soutiens l'hypocrisie
institutionnelle. Ce n'est pas une explication de vote. Ce n'est pas une explication de vote, et là encore vous mentez, parce que le FSL, la règle est la même pour tout le monde, y compris pour les gens du voyage. Donc, les gens du voyage, effectivement, qui habitent ou qui campent au moins de temps en temps dans la métropole. Le problème, c'est que là, on nous demande, je rappelle que nous gérons le FSL, c'est plus le département, et qu'on nous demande là du FSL pour des gens qui n'ont même jamais mis les pieds dans la métropole, qui n'y campent même pas, alors qu'ils sont ailleurs dans le département. Dans ce cas, qu'ils aient marge au FSL du département. Et sur les conditions, là encore, balayez devant votre porte, puisque nous sommes moins restrictifs que le Grand Nancy. Sur ce, nous passons au vote. Qui vote contre notre avis ? Donc le groupe UGE, voilà. Qui s'abstient? Donc, Monsieur Grégoire, les autres votent pour. Je vous remercie. Et puis, une fois que nous avons terminé pour les points de délibération, le point 12, c'est la communication des délibérations prises par le bureau. Cela vous a été communiqué. Et le 13, la communication des décisions prises par l'exécutif. Et sur ce, je lève la séance. Bonne fin de soirée.